Bon, alors j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter Éric Croubézy, qui est professeur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, où il dirige le laboratoire AMIS, c'est-à-dire un laboratoire d'anthropobiologie. Il a monté un gros laboratoire qui regroupe le laboratoire de la professeure Christine Kaiser de l'Université de Strasbourg et qui regroupe aussi une équipe INSERM de Bordeaux. Parmi tous les talents du professeur Croubézy, il était à l'origine médecin et bordelais.
Montpelliérain.
Il a fait le tour. à l'heure actuelle, c'est un des excellents spécialistes de l'étude des populations récentes. Parce qu'on vous a parlé beaucoup d'anciens, mais Éric travaille sur, essaie de comprendre ce qui s'est passé au niveau des populations récentes et des différents peuplements. Et ceci aussi bien, et ça a été évoqué ce matin, aussi bien dans les froids sibériens que dans les hauteurs de l'Amérique latine. Cher ami, vous avez la parole pour au maximum une demi-heure.
Michel, merci. Merci de m'avoir invité. Merci à l'espace Mendès France de nous recevoir. Or, le titre de cette présentation s'intitule « Vers une remise à plat des différents scénarios de l'histoire du peuplement d'Homo sapiens récent ». Alors, je vais vous épargner un PowerPoint qui irait trop rapidement et vous parler, en fait, de ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années sur les peuplements récents. Et pour ça, il faut bien que vous saisissiez ce qui s'était passé avant. Si je prends le scénario avant, moi je me souviens, c'est un hommage aujourd'hui pour moi à M. de Bonis, c'est un honneur pour moi d'avoir à parler devant vous, monsieur. Je me souviens quand vous veniez à Bordeaux, effectivement, que j'étais jeune maître de conférence. Il faut bien voir que jusque dans les années 80, les scénarios sur l'histoire du peuplement récent, c'est-à-dire ces 202 000 dernières années, jusqu'en les années 80, les scénarios étaient des scénarios qui étaient essentiellement paléoanthropologiques. C'est-à-dire que c'était les paléoanthropologues, à partir de l'anatomie comparée, qui avaient fixé les scénarios. Et ces scénarios, jusqu'en les années 80, ils étaient très ancrés dans ce que Weidenreich, dès 1930, avait vu. À l'époque, on était dans des théories qui étaient des théories non pas forcément raciste, mais qui était théorie raciale. Et Weidenreich disait, en 1930, en gros, les Africains seraient nés d'un rameau homo sapiens africain, les Asiatiques d'un rameau homo sapiens asiatique, et les Européens d'un rameau homo sapiens européen. C'est ce qu'on appelait la théorie polycentrique de l'homme moderne. Savoir quand est-ce que ces différents scénarios s'était mis en place, était quelque chose que je me plais à rappeler, quand je crois que quand M. de Bonis, vous avez commencé vos études, l'ancienneté de l'homme, à peu près, elle était à 500 000 ans au maximum, on était loin des 7 millions d'années aujourd'hui. Si vous voulez. Et donc l'ancienneté de l'homme moderne, elle était envisagée à quelques dizaines de milliers d'années. Et on voyait donc, on pensait que ce qu'on appelait à l'époque les races était apparu en différents endroits à travers le monde. Ceci était soutenu par des arguments anatomiques qui, dans certains endroits, étaient des arguments anatomiques qui étaient forts, notamment en Asie, où les auteurs voyaient une continuation entre certains caractères, parce qu'on appelait des fossiles d'Homo erectus, notamment, par exemple, les incisives dites en pelle, que vous connaissez peut-être, le fait d'avoir la partie postérieure des incisives supérieures qui est entourée d'un liseré, d'émail très fort, ce qu'on appelait à part l'époque l'os des Incas, parce qu'il avait été retrouvé de façon nombreuse chez les Incas, parce qu'on étudiait beaucoup, les Américains étudiaient beaucoup de momies d'Amérique du Sud, et qui était un petit os surnuméraire à la partie de l'occipital. Cet os surnuméraire à la partie de l'occipital, on le retrouve assez fréquemment dans les populations asiatiques, et on le retrouvait beaucoup dans les populations d'Homo erectus. Et donc, des années 30 aux années 80, il y avait cette idée que finalement, les hommes modernes, c'est-à-dire nous, on avait pu émerger, depuis les Homo erectus, en différents endroits du monde, les Homo erectus asiatiques, qui auraient donné les populations d'Homo sapiens asiatiques, populations africaines, etc. Et donc, finalement, les Homo erectus étaient à l'époque considérés, je dirais, si on voulait s'en tenir à une dénomination stricte, comme des Homo sapiens erectus, si vous voulez, ce que les paléontologues considèrent un peu comme une espèce chronologique. Il y avait quelques auteurs qui allaient contre cette idée, mais ils n'étaient pas si nombreux que ça. En 1987, est parue une étude de Kahn sur l'ADN mitochondrial. Et cette étude de Kahn sur l'ADN mitochondrial montrait qu'en fait, donc cet ADN mitochondrial, Christine Kaiser vous en a parlé ce matin, c'est celui qui est transmis par nos mères. Nous avons tous le même que celui de notre mère, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère du côté maternel. Et Kahn a dit, écoutez, finalement, tous les hommes, à l'heure actuelle, ont un même ancêtre, qui est un ancêtre féminin. Et au même moment, il y avait différents auteurs, dont un Allemand, Bauer, un Français, Van der Mersch, qui plaidait pour une origine dite unique de l'homme moderne. Il disait peut-être que l'homme moderne est apparu une fois et qu'il a reconquis les continents. Et justement, il y a eu, du point de vue histoire des sciences, similitude entre ces deux scénarios, à savoir que les paléontologues qui suivaient cette idée se sont appuyés sur les travaux des généticiens, et les généticiens qui suivaient cette idée se sont appuyés sur les travaux des paléontologues. Et finalement, dans les années 90-2000, tout à l'heure, un monsieur de cette salle a fait signer un excellent ouvrage que je connais bien, que nous avions écrit à l'époque avec José Braga et Georges Laroui pour les étudiants en médecine. Dans cet ouvrage, on citait encore, si vous voulez, les différentes hypothèses, mais il faut bien voir que plus le temps passait, plus cette hypothèse, si vous voulez, comme quoi il y aurait pu avoir différentes émergences de l'homme moderne, prenait mal. Et elle prenait mal parce que finalement, toutes les études génétiques qui étaient menées allaient dans le même sens. Il y a eu une origine unique de l'homme moderne. C'est quelque chose, si vous voulez, qu'en tant que paléontologue, avec José Braga, et on a des preuves, il y a nos articles notamment qu'on écrivait dans la recherche, on a toujours eu du mal à accepter, si vous voulez. On se disait, mais attention, il y a quand même eu, si vous voulez, c'est pas un hasard quand même pour nous que si les populations asiatiques ont 100% d'incisives en pelle dans certains endroits, les Homo erectus ont des incisives en pelle, c'est pas un hasard, si vous voulez. Mais les généticiens, finalement, je dirais, appuyaient leurs hypothèses, renforçaient leurs hypothèses. Et de plus en plus, il est apparu, dans les années 2000, de plus en plus, que finalement, l'origine de l'homme moderne était unique. L'homme moderne était apparu, on vous a montré une diapositive, j'en ai d'autres, je vous les montrerai les diapositives si vous voulez. L'homme moderne est apparu il y a environ 200 000 ans en Afrique, et il a reconquis le monde entier. Il a conquis des territoires où jusque-là l'homme n'était jamais allé, l'Australie, l'Amérique. L'Australie il y a 60 000 ans, l'Amérique il y a 20 000 ans. Mais il avait reconquis des territoires comme l'Asie, où il avait eu des prédécesseurs, des Homo erectus, qui étaient restés là sans laisser de traces. Et finalement, qu'il y ait eu des gens avant ou personne, revenait dans certains scénarios extrêmes à la même chose, si vous voulez, puisque l'homme moderne avait tout reconquis. Alors savoir pourquoi l'homme moderne avait tout reconquis, c'était pourquoi c'était finalement l'homme moderne qui avait gagné et pas les Homo erectus. Alors c'était une grande question. Et dans les années 90, il y a cette question du langage qui est apparue. Dans la question du langage, c'est quelque chose qui est un peu plus pervers, parce que ça c'est lié à d'autres idées sur finalement, les modes d'évolution qui sont mis en jeu. En gros, vous aviez la théorie synthétique de l'évolution qui avait cours depuis les années 1940 jusque dans les années 70 et qui voulait que les choses arrivent progressivement. Donc si le langage était apparu, c'est qu'il était arrivé progressivement. D'accord, il y avait une sélection. On allait, comme l'avaient dit les pères de la théorie synthétique, vers quelque chose de plus en plus intégré et de plus en plus parfait. Et donc on s'imaginait un langage qui était apparu progressivement. Et puis Gould est apparu dans les années 72. Gould et Aldrin, dans les années 72, ont dit attention. Alors, ils disaient toujours on est darwinien. En fait, ils n'étaient plus trop darwiniens. Gould et Aldrin ont dit attention, l'évolution, c'est pas ça, c'est pas une lente évolution. Ce sont des petites populations comme ça qui subissent une dérive génétique et il y a une sélection qui se fait au hasard. Et alors, l'exemple du langage était fantastique parce qu'au même moment, on s'apercevait qu'il y avait un gène qui n'était pas le gène du langage, mais qu'il y avait un allèle qui permettait le langage. Donc, ils ont dit, ben, voilà, il suffirait, par exemple, que dans une population, par le fait du hasard, cet allèle soit sélectionné, par le fait du hasard, pour qu'ensuite, tout le monde se mette à parler uniquement par le fait du hasard. On n'était plus dans un phénomène de sélection progressive, on était dans l'apparition de quelque chose de direct. Et là, si vous voulez, dans l'esprit des chercheurs, il y a eu quelque chose qui est apparu, c'est-à-dire on s'est dit, l'homme moderne, finalement, il est apparu et il a diffusé, et peut-être que c'est l'homme moderne qui avait le langage, à ne pas confondre avec communication, d'accord ? Mon chien communique très bien, mais ça c'est autre chose. Le langage vous permet de penser à des choses qui finalement pourraient être ou n'existent pas, d'accord ? La communication, c'est... nous, aller manger là-haut, d'accord ? Ça, on le comprend très bien. Quand mon chien a faim, il secoue sa gamelle et on va manger là-haut. Donc, si vous voulez, il est apparu dans les années 90 que l'homme moderne était apparu, que vraisemblablement le langage était apparu avec l'homme moderne, ce qui impliquait d'ailleurs différents éléments. Ça impliquait le langage, le symbolisme, ça impliquait les sépultures, apparition des premières sépultures totalement avérées il y a 100 000 ans. Quand je dis totalement avérées, c'est-à-dire qu'elles ressemblent aux nôtres. Il y en avait peut-être avant, mais elles ne rentrent pas forcément dans la variabilité des nôtres. Et donc, le scénario, je me souviens d'avoir mangé avec un collègue il y a 5-6 ans, qui était un spécialiste de la génétique, mais qui n'était pas un spécialiste de l'évolution humaine, et qui me disait, dans votre domaine, mais tout est connu. D'accord. L'homme moderne apparaît il y a 200 000 ans, il se répand à la surface de la Terre. Une fois qu'il s'est répandu, c'est toujours un chasseur-cueilleur. Il y a 12 000 ans au Proche-Orient, ou 14 000 ans, pardon, au Proche-Orient et dans différents endroits de la Terre, entre 20 000 et 5 000 avant Jésus-Christ, des foyers de néolithisation apparaissent, c'est-à-dire des foyers d'agriculture. Ces foyers d'agriculture, on ne sait pas pourquoi ils apparaissent, mais vraisemblablement, il y a une pression démographique qui fait que les gens restent un peu plus sédentaires, cultivent, ça c'est un autre élément. Et ces foyers d'explosion démographique repeuplent à leur tour la Terre. Alors ça, c'était la grande théorie, si vous voulez, de Cavalli-Sforza et d'Hammermann dans les années 70. Vous voyez, on se trouve toujours à la deuxième tiers du XXe siècle. Et Hammermann et Cavalli-Sforza, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient, ben, écoutez, il y a 12 000 ans, des gens venus du Proche-Orient ont reconquis l'Europe, d'accord ? Et ils ont reconquis l'Europe, finalement, parce qu'il y a eu une expansion démographique, parce que les agriculteurs ont eu plus d'enfants que les chasseurs-cueilleurs, et donc ils ont reconquis l'Europe. Un exemple simple que je vous donne, c'est si on prend le continent américain actuellement, nord-américain, il n'y a plus beaucoup d'Amérindiens. D'accord ? Les Européens ont reconquis le continent nord-américain. Et pourquoi les Indiens ont disparu ? Ils n'ont pas disparu parce qu'on les a tués. D'accord ? Au même moment où on tuait des Indiens, il y avait plus de Blancs qui mouraient. Okay ? Et on les a simplement... C'était un déséquilibre démographique qui faisait qu'il y avait énormément d'Européens et très peu d'Amérindiens. Et donc ce déséquilibre démographique a entraîné ce qu'on connaît actuellement, c'est que si vous prenez 100 sujets au hasard aux États-Unis, ben, la probabilité que vous rencontriez un Amérindien, elle est faible. Elle existe, mais elle est faible. Et donc le peuplement de l'Europe s'était passé de la même façon. Et on disait, en ce qui concerne les langues, par exemple, eh ben, il y a des langues qui sont nées au Proche-Orient, et elles ont reconquis l'Europe. Et au bout de l'Europe, là-bas, il y avait des chasseurs-cueilleurs qui ont résisté un peu pendant quelques temps, et qui sont restés, qui étaient les Basques. Donc on avait un scénario, si vous voulez, de l'histoire du peuplement qui était très bien assuré dans les années 90. Et ce qui est intéressant, c'est que ce scénario, il a été étroitement appuyé par des données génétiques. Toutes ces périodes, entre 200 000 ans et l'heure actuelle, ont été appuyées par des données génétiques qui toutes montraient que l'homme moderne avait une origine unique, d'accord ? Et qui toutes montraient que les populations contemporaines descendaient des premières populations d'agriculteurs qui avaient éliminé les populations de chasseurs-cueilleurs. Tout semblait fixé. tout semblait fixé, et je dirais qu'il n'y avait que des anthropologues, ce qu'on appelait à l'époque encore physiques, qui disaient « c'est quand même bizarre cette histoire de Homo erectus, alors c'est nos maîtres, M. de Bonis, M. van der Merch, qui nous l'ont appris, alors on sait bien que l'anatomie, on ne sait pas comment sont déterminés les caractères, mais enfin, ça reste, si vous voulez ». Et dans le même temps, il y avait sur le néolithique, par exemple, des chercheurs dont je faisais partie qui disaient « mais c'est quand même bizarre, parce que si les gens du Proche-Orient ont remplacé tous les gens de l'Europe, alors dans le néolithique ancien, quand on regarde des gens en Europe du néolithique ancien, ils doivent ressembler aux gens du Proche-Orient. Mais en fait, ils ne ressemblent pas du tout aux gens du Proche-Orient, ils ressemblent aux gens du paléolithique supérieur. Donc on se disait « ça cloche pas ». Mais alors c'est amusant parce que vous connaissez... L'idée pour Michel de publier dans des revues de haut niveau, sur ces théories-là, on les a jamais publiées dans des revues de haut niveau. J'ai même une revue, si vous voulez, qui sur des bases génétiques, etc., qui démontrait l'inverse de ce qui était, qui m'avait répondu « cet article est nul ». C'était direct, ça n'allait pas dans l'esprit du moment. Et puis... C'est ce que vous a expliqué Christine Kaiser. Alors tout était supporté, mais quand même, il y avait certaines données génétiques. À mesure que les données génétiques se développaient, si vous voulez, elles n'allaient pas toutes dans le même sens. Par exemple, bon, en ce qui concernait l'homme moderne, il y a des collègues aux États-Unis qui avaient publié, alors ils n'étaient pas réussi à publier dans de très grandes revues, mais qui ont publié que... C'était bizarre. Quand on étudiait le génome humain, quand même... On se demandait s'il n'y avait pas, dans certains endroits, là, des restes de différents génomes, si vous voulez. Alors, à l'époque, c'était difficile à admettre, il y a 10 ans. Dans le même temps, les gens qui étudiaient la génétique, je me souviens avoir fait des conférences avec Christine Kaiser chez Jean Guilhem au Collège de France, on passait des diapos que je vous épargne, mais on mettait côte à côte les différentes théories qu'il y avait. Ceux qui étaient pour Hammermann et Cavalli-Sforza, les chasseurs-cueilleurs avaient remplacé les agriculteurs pour 100%. Sur l'ADN mitochondrial, c'était plus que sur 20%. Sur les marqueurs du Y, c'était pour 50%. Et sur les marqueurs de l'ADN nucléaire, c'était très variable d'une population à l'autre. Donc il y avait cette période d'incertitude. Mais en gros, les scénarios, si vous voulez, ils étaient quand même bien établis. Et puis, c'est ce que vous a dit, il y a eu 2 révolutions. La première révolution, c'est qu'on a eu directement accès, c'est ce que vous a présenté Christine ce matin, à l'ADN, non plus des populations contemporaines, mais des fossiles. En ayant accès à l'ADN des fossiles, au départ, les gens disaient, de toute façon, ça ne va pas servir à grand-chose. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. Ça ne va pas servir beaucoup à grand-chose. On aura un tout petit ADN de Néandertal, on ne savait jamais savoir ce qu'on va en faire, etc. Et puis moi, je me souvenais toujours, c'est une histoire que je raconte, et puis on est entre nous, celui qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'en 1972, j'avais 12 ans, et ma prof de latin avait dit que son mari travaillait à IBM et qu'on allait voir un ordinateur. Et alors, toute la classe a pris le bus et s'est rendue, je m'en souviens encore comme si c'était hier, à IBM, voir un ordinateur. On nous a ouvert une salle où, je me souviens, il faisait un peu frais. Et il y avait un ordinateur. Et je me souviens, mais comme si c'était hier, d'un gamin qui a dit « Madame, est-ce que chacun un jour on aura un ordinateur chez nous ?» Et le chercheur qui a dit là, il lui a dit « Mais non, c'est impossible. Regarde, ça marche avec des cartes, etc. et autres. Ça, donc ça, c'est impossible, mais de plus en plus, on aura des ordinateurs puissants et on fera quelque chose. » J'avais 12 ans, mais je me souviens d'un truc qui devait être, c'est une traduction a posteriori, « rester centralisé, si vous voulez ». Le Parti communiste faisait encore 25% de voix aux élections. Je vous parle d'un temps que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, si vous voulez. Mais ça m'était resté quand même. Et alors je me suis toujours dit, quand on me parlait d'ADN, c'est pour ça qu'avec Christine Kaiser et Bertrand Lude, qui sont plus que des amis, on s'est lancé là-dedans. Parce que moi j'ai toujours pensé que cette histoire d'ordinateur qu'on avait tous chez nous, un jour ça s'améliorait. On a eu raison parce que ça s'est amélioré très vite. Si vous voulez. Alors ça s'est amélioré très vite et donc on a eu au départ des données sur ces restes. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Et alors là, si vous voulez, on s'est aperçu de quelque chose qui était phénoménal, mais absolument phénoménal. Et juste, Christine vous en a parlé ce matin, mais elle vous a présenté ça, c'était splendide et autres. Mais voyez, Vous, vous l'avez pris parce que vous faites partie d'une génération, vous avez tout vu à la télé. Tandis que moi, je dirais que, en ce qui me concerne, comme j'ai vu comment ça s'est passé, je me dis, mais c'est pas possible, quoi, je veux dire. C'est pas possible. Il faut dire, mais c'est fabuleux. C'est-à-dire que cet effet phénoménal, c'est vers une remise à plat, c'est que les généticiens n'avaient pas raison. On le sait. Les paléontologues n'avaient pas raison. On le sait. Mais on ne sait pas qui avait raison. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est ce que je vous dis, vers une remise à plat des différents scénarios, c'est qu'on n'en sait rien. D'accord. Ce qu'on a réussi à démontrer en quelques années, et avec Bertrand Lude et Christine Kaiser, nous y avons participé, c'est que nous ne savons rien. D'accord. Nous ne savons rien, et que ce qu'on sait en tout cas, c'est que tout ce qui a été proposé jusqu'à maintenant, ça ne tient pas la route. Et ça ne tient pas la route, pourquoi ? Parce que on peut comparer aujourd'hui l'ancien et le récent. Or, on peut comparer l'ancien et le récent, et par exemple, il apparaît, c'est ce dont Christine doit vous parler, que il ne semble pas qu'il y ait eu des émergences différentes en différents points du monde d'Homo sapiens. Mais il semble bien qu'il y ait un Homo sapiens qui soit apparu. On pense encore en Afrique. Comment ? On n'en sait rien. Et d'Afrique, il est sorti plusieurs fois. Ça, et alors, cette révolution, si vous voulez, on le sait, en étudiant non plus l'ADN mitochondrial, non plus le marqueur du Y, non plus les marqueurs de l'ADN, mais la totalité de l'ADN. Et il est sorti en plusieurs fois. Alors, on sait déjà qu'il est sorti, il y a une branche, vraisemblablement, qui est sortie il y a 60 000 ans et qui est arrivée directement en Australie. Et puis, il y en a d'autres qui sont sortis après. On dit, maintenant, il y a une deuxième branche qui est certainement sortie. Mais on dit, il y a une deuxième branche, mais parce qu'on n'a pas encore étudié les autres. Quand on va commencer à s'apercevoir pourquoi, d'un seul coup, des gens seraient sortis. C'est en fait une expansion démographique qui a été dû être plus ou moins continue, si vous voulez, avec des phases de repli, des phases d'expansion. Mais maintenant, là, on en est au niveau des hypothèses. Donc, il y a des gens qui sont sortis, mais alors ? Mais quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais quand ils sont sortis, l'étude des restes anciens nous montre que ils se sont confrontés à des gens qui étaient sortis avant eux, d'Afrique, dont leurs ancêtres étaient sortis avant eux, les Néandertaliens, les Denisoviens, dont Christine vous parlera tout à l'heure, et ils se sont croisés. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'ils se sont croisés, donc c'est la théorie avec Néandertal, vous savez, donc, ce qui veut dire que l'Homo sapiens, tel que nous le connaissons actuellement, c'est plus une espèce unique, si vous voulez, à part. Il s'est croisé avec d'autres. Donc ça veut dire que c'est un ancrage très profond. Mais ce qui est fantastique, c'est quand on prend le cas des Denisoviens. On peut vous en parler. Les Denisoviens, c'est l'équipe à Pabo qui travaille là-dessus. Et ils étudient des os dans une cavité, très peu d'os d'ailleurs. On ne sait pas ce que c'est. Ils font de la génétique dessus. Ils ont le groupage complet. Et il dit, ce groupage complet, c'est un sujet qui est certainement parent avec Néandertal, mais ce n'est pas néandertalien, qui est parent avec les hommes modernes, et dont voici le génome complet. Et on commence à regarder si, dans ce génome complet, on a des fragments ailleurs. Et on s'aperçoit qu'on a des fragments ailleurs dans presque toute l'Asie, jusqu'en Asie. Mais alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que non seulement on a des fragments ailleurs dans presque toute l'Asie, mais c'est quand on prend notre système de résistance du corps humain, c'est-à-dire notre reconnaissance du soi, ce qui nous permet de reconnaître les bactéries, on s'aperçoit que les hommes de Denisova, s'ils ont existé, eh bien non seulement ils ont transmis aux Homo sapiens une partie de leur groupage, mais ce groupage a permis aux Homo sapiens de survivre certainement face à certaines bactéries. Et donc du coup, ça a diffusé dans les populations. C'est même remonté jusqu'en Afrique. Et ça continue à l'heure actuelle de remonter. Donc on arrive à l'heure actuelle à comprendre pourquoi certaines maladies, et on va le comprendre sous peu, pourquoi des résistances à des maladies, si vous voulez, il y a des populations qui arrivent ou pas, et ça leur est passé certainement par des populations anciennes. Donc ça, c'est une, si vous voulez, c'est le passé rejoint le présent. On arrive à comprendre. Cet article dont je vous parle, ce n'est pas un article d'anthropobiologiste, ce n'est pas un article de Paabo, si vous voulez. C'est un article des spécialistes mondiaux du groupage HLA. D'accord, qui disent, effectivement, c'est passé dans les populations contemporaines et ça continue de progresser. D'accord, ça continue de progresser parce que ça nous confère un avantage sélectif. Donc du coup, si vous voulez, ça veut dire que, quels que soient les Denisoviens, pour moi, c'était certainement ce qu'on appelait à l'époque des homo sapiens archaïques, si vous voulez. ça prouve qu'il y a eu des échanges, ça prouve aussi que nos incisives en pelle, etc., c'est peut-être les Denisoviens, peut-être des Homo erectus, en tout cas, mais qu'il y a eu des croisements, si vous voulez. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu une hypothèse qui est réticulée. Ensuite, quand on prend ce qui se passe pour les néolithiques, qu'est-ce que c'est qui se passe pour les néolithiques? Pour les néolithiques, c'est pareil. On vous disait, soit c'est les agriculteurs qui arrivent, d'accord. Et les archéologues disaient quand même, certains anthropologues disaient, ben, ça nous semble un peu bizarre, et certains archéologues, dont Jean Guilaine, partageaient quand même une idée, si vous voulez, de quelque chose d'autochtone. Mais en fait, on se rend compte que ceux qui ont peuplé l'Europe, il y en a une partie qui venait du Proche-Orient. Ce en quoi les généticiens avaient raison. Seulement les généticiens, ils disaient ça sur des marqueurs qui ne sont plus présents, qui en fait n'étaient pas ceux de l'origine du néolithique. C'est-à-dire que ceux qui ont peuplé l'Europe, ils ont disparu, si vous voulez. Leurs descendants ont disparu. Donc on ne sait pas à l'heure actuelle, ils avaient faux les généticiens quand ils disaient que ça venait du Proche-Orient. Ils avaient faux parce que notre génome actuel vient en partie du Proche-Orient, mais sur des phénomènes qui sont bien postérieurs, de diffusion, si vous voulez, là-dessus. Mais ceux qui sont venus du Proche-Orient, on a leur reste, on les étudie, Christine Kaiser vous en a parlé ce matin, et en fait, dans leur reste, on trouve des croisements entre des gens qui sont du paléolithique supérieur, en gros, ou du mésolithique, et des nouveaux arrivants, mais ces nouveaux arrivants, ils ont des marqueurs qu'on ne retrouve plus dans les populations contemporaines, que ce soit dans les populations danubiennes, ou, c'est-à-dire dans le nord de l'Europe, ou dans le sud de l'Europe. C'est-à-dire que ceux qui ont peuplé notre continent, qui en sont à l'origine, ils ont disparu. Et la question qui se pose, c'est pourquoi ils ont disparu? D'accord. Pourquoi il y a des gens qui ont peuplé l'Europe et qui ont disparu? Et est-ce que ça a pu se passer dans d'autres régions du monde? Et on s'aperçoit de façon assez extraordinaire que ça s'est, actuellement, chaque fois qu'on a des exemples, que ça s'est passé partout, pareil, dans le monde. Imaginez quand même que 10% du peuplement de la Haute-Asie vient d'un seul fondateur, à l'heure actuelle. On dit que c'est extraordinaire. Ce n'est pas si extraordinaire que ça. Pour un Français qui est arrivé au Canada au XVIIe siècle, parti des côtes ouest de la France, il y a 800 descendants maintenant. Mais il y a des gens qui ont eu plus de descendants que d'autres, et il y en a qui ont eu moins de descendants. Et ce qui est en jeu, si vous voulez, maintenant, c'est de comprendre pourquoi il y en a certains qui ont eu plus de descendants, et pourquoi il y en a qui ont eu moins de descendants. Vous avez deux solutions. La première solution, elle est sociale. Les hommes forts, en gros, c'est une hypothèse machiste qui fait plaisir à tout le monde, qui fait rêver Christine Kaiser. Mais pendant très longtemps, il ne faut pas qu'elle dise non, 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 parce que j'ai souvent dit, elle sait qu'elle se trompait. Et depuis, l'hypothèse machiste, si vous voulez, c'est que certains hommes pouvaient avoir beaucoup plus d'enfants que d'autres. Et je vous rappelle le livre mondial des records, d'accord? Sur le livre mondial des records, l'homme qui a eu le plus d'enfants au monde, sérieusement répertorié, c'est un musulman qui, je crois, vivait en Algérie, qui en a eu 990 répertoriés, d'accord, officiels. Et le livre mondial des records nous indique que la femme qui a eu le plus d'enfants qui ont vécu, c'est une Russe qui en a eu 60, d'accord. Ah, ce qui est bien, madame, c'est que vous n'avez pas applaudi aux 990, vous explosez, madame. Je vous donnerai ma carte avant de partir. Mais en dehors de ça, si vous voulez, vous voyez où se situe l'exploit. Oui, c'est 990, ça ne nous fait pas rêver, mais 60, on se dit comment a-t-elle fait. Il y a eu beaucoup de triplés, voire même un quintuplé qui ont survécu. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Toujours est-il que nous sommes dans des rapports de 1 à 10. Donc il y a des hommes, si vous voulez, qui de toute façon peuvent avoir beaucoup plus d'enfants. Ça, c'est l'hypothèse sociale, si vous voulez. Il y a d'autres hypothèses qui rentrent en jeu, qui sont bien connues et développées, par exemple, par Patricia Balaresque dans le laboratoire que j'ai l'honneur de coordonner, sinon de diriger, du moins de coordonner, et qui sont des hypothèses, en fait, de fertilité. À l'heure actuelle, quand on étudie le chromosome Y, par exemple, on s'aperçoit que dans le chromosome Y, vous avez des parties répétées. Plus vous avez de parties répétées, en fait, quand on fait des corrélations, plus les gens ont d'enfants. D'accord. Et ça, on le sait depuis longtemps. Il y a des femmes qui sont plus fertiles que d'autres. La simple démonstration étant que le fait que le nombre de jumeaux a explosé en France durant la guerre de 14-18, lié aux permissions, d'accord, et que les femmes les plus fertiles ont plus de jumeaux bizygotes, c'est-à-dire en fait, de jumeaux différents, si vous voulez, que de jumeaux monozygotes. Et donc, c'est pendant la guerre de 14-18 qu'on a eu plus fort taux de jumeaux en France, parce qu'effectivement, les hommes étaient plus fertiles que d'autres, d'accord, et à ce moment, et certaines femmes étaient plus fertiles que d'autres, et c'était celles qui avaient à ce moment-là le plus d'enfants. donc sur des périodes courtes. Donc, il y a des éléments, si vous voulez, qui montrent qu'actuellement, les recherches sur la fertilité vont nous montrer qu'il y a certains Y qui sont facilités par rapport aux autres. 3 minutes. Mais j'ai presque fini quand j'en suis au spermatozoïde, Michel. C'est la fin.
Si tu le dis.
Donc, ceci pour vous dire, si vous voulez, que quand je vous disais que nous sommes vers une remise à plat des différents scénarios, je terminerai là-dessus en vous résumant brièvement ce que j'ai dit. Dans les années 2000, le scénario était simple. D'accord ? Le scénario était simple. Les hommes modernes avaient conquis la planète. Qu'il y ait eu des gens avant ou après, ne changeait pas grand-chose. Ils étaient arrivés. Et ensuite, toutes les phases de peuplement étaient des phases de peuplement liées à des expansions démographiques, essentiellement liées à des agriculteurs. Là-dessus s'enchaînait toute une suite d'implications culturelles, le langage, la diffusion de l'agriculture, la formation des États, qui avaient des implications, je dirais, fondamentales dans l'interface biologie-culture. Depuis 4 ans, avec la découverte, des découvertes importantes qu'il y a en génétique actuellement, c'est-à-dire l'étude des génomes complets, que ce soit de sujets anciens ou récents, tous ces scénarios sont mis à mal. Tous ces scénarios sont mis à mal. Et nous sommes à une phase qui est simplement le début. La seule chose qu'on puisse dire à l'heure actuelle, c'est que tous les scénarios auxquels on pensait assurer jusqu'à présent ne sont pas les bons. Et en revanche, je dirais que j'avais placé cette conférence en hommage au professeur de Bonis, c'est que lorsqu'on y réfléchit, si vous voulez, pour la première fois dans l'histoire des sciences, nous n'avons jamais été aussi proches d'une convergence vers données anatomiques et données génétiques. Je vous remercie.
Merci pour ta ponctualité. Et donc, maintenant, on fera la discussion à la fin.
Oui.
Christine, tu vas à nouveau avoir la parole pour au maximum une demi-heure.
Donc cette présentation est dans la continuité de celle de ce matin et des propos du professeur Crubezi. Et donc le modèle que j'ai choisi de vous présenter pour vous montrer comment les progrès ont été fulgurants dans le domaine de l'ADN ancien, c'est effectivement l'homme de Néandertal. Donc bon, vous savez que le premier spécimen a été découvert en 1856, donc dans le nord de l'Allemagne, près de Düsseldorf. Que c'est un représentant fossile du genre Homo qui a vécu en Europe et en Asie occidentale entre 250 000 et 28 000 ans avant notre ère, et que en fait il a disparu d'une manière qui reste encore aujourd'hui assez énigmatique. Donc on essaye tout doucement d'apporter des réponses, mais on n'a pas de réponse définitive. La seule chose que l'on sait, c'est que son extinction coïncide avec l'arrivée des hommes anatomiquement modernes, donc venus du Proche-Orient il y a 40 000 ans. Et donc ce que l'on suppose, c'est que en fait, l'homme de Néandertal donc, aurait cohabité avec l'homme moderne pendant près de 15 000 ans environ. Donc qui était-il ? Donc ce que l'on sait également des caractéristiques morphologiques, c'est qu'il était d'une taille relativement petite. Il avait une corpulence massive et robuste, une cage thoracique relativement large, un crâne qui était relativement volumineux, avec néanmoins quelques caractéristiques, telles qu'un bourrelet, un bourrelet susorbital, un front fuyant, le chignon occipital, l'absence de menton et donc une avancée de la mâchoire, donc le prognathisme. Donc voilà ce que l'on sait. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces caractéristiques finalement sont dans la limite de la variabilité humaine ? Ou au contraire, est-ce que finalement c'est une espèce complètement différente ? Donc c'est une question qui a intéressé les anthropologues pendant de longues années. Et donc la question qui se posait, c'était est-ce qu'effectivement il y a eu un métissage a été possible entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne ? Ou au contraire, si c'était deux espèces différentes ? ce métissage n'a pas été possible. Donc il y a eu un long débat anthropologique, tout d'abord basé sur des études morphométriques qui révélaient néanmoins que de nombreux critères étaient propres aux Néandertaliens, ce qui penchait quand même pour l'idée que c'était une espèce à part. Après, on a bien sûr fait des découvertes fossiles, et notamment celle d'un squelette, le squelette d'un enfant de 4 ans, retrouvé donc au Portugal, sur le site de la gare Vélo. Un squelette qui a beaucoup divisé les anthropologues, puisque pour certains, ce squelette présentait des caractères à la fois propres aux Néandertaliens et d'autres propres à l'homme moderne, ce qui était pour certains finalement la preuve qu'il y avait eu un métissage et que voilà, il y avait un descendant qui présentait des caractères mixtes. Pour d'autres, en fait, c'était pas du tout la bonne explication. L'explication, c'est que c'était un enfant, donc tous les caractères n'étaient pas encore complètement aboutis et que voilà, ça expliquait très très bien pourquoi on pouvait considérer certains caractères comme néandertaliens ou pas. Un autre argument en défaveur d'une espèce proche et d'un métissage, en tout cas, c'est qu'on n'a pas observé d'évolution dans les structures anatomiques des derniers Néandertaliens. Donc on peut penser que s'il y avait eu métissage, et bien tout doucement, on aurait vu effectivement une évolution, ce qui n'a pas été observé. Donc la question quand même du métissage est importante, puisque si l'homme de Néandertal est une espèce différente, il ne peut pas en fait normalement se croiser avec l'homme moderne, et donc on l'appellerait Homo Néandertalensis. Si au contraire un métissage est avéré, cela voudrait dire que c'est une sous-espèce, et auquel cas il faut l'appeler Homo sapiens Néandertalensis. Et puis, tout doucement, la génétique donc a pris un petit peu sa place dans ce débat. Tout d'abord, je vous le disais, avec l'ADN mitochondrial, qui était le plus simple à étudier au départ. Et donc en 1997, l'équipe de Svante Paabo a pour la première fois réussi à extraire de l'ADN donc du premier spécimen néandertalien mis au jour, donc le spécimen de Feldhofer. Et donc il est arrivé à séquencer une petite région donc, dont je vous ai parlé ce matin, la région HV1 de l'ADN mitochondrial, donc cette petite région. Donc il est arrivé à la séquencer. Et puis il a fait un arbre phylogénétique qui place, comme vous le voyez, les spécimens néandertaliens en dehors des spécimens modernes. Et donc vous voyez que si on compare en fait le nombre de différences entre deux ADN mitochondriaux pour des individus modernes, on peut observer jusqu'à 8 différences. En revanche, quand on a comparé l'ADN d'individus modernes à celui de Néandertalien, on avait près de 28 différences, donc ce qui montrait bien qu'il y avait effectivement quelque chose de bien différent. 2 ans plus tard, la même équipe est parvenue à séquencer donc la deuxième région hypervariable, et là encore, l'arbre phylogénétique plaçait bien cet individu en dehors de la variabilité des hommes modernes. Donc on pensait à ce moment-là qu'effectivement, l'homme de Néandertal n'avait pas contribué au pool de l'ADN mitochondrial des hommes modernes. En l'an 2000, l'équipe Dovichnikov réussit également à obtenir une séquence d'ADN mitochondrial. Et en fait, le spécimen étudié est un enfant de la grotte de Mizmaskaya. Et donc, vous voyez en fait que les deux séquences ici sont finalement relativement proches l'une de l'autre, malgré les 2500 kilomètres qui séparent les deux spécimens, et se placent toujours en dehors de la variabilité humaine moderne. Et puis, toujours la même année, un troisième spécimen est étudié, un spécimen de la grotte de Vinja en Croatie. Et là encore, vous voyez que quand on étudie, les spécimens néandertaliens se placent dans un clade à part, ensemble, de manière séparée de celui des néandertaliens modernes. Donc à partir de là, on a dit, sur 3 spécimens, maintenant on voit que apparemment, effectivement, il n'y a pas eu de métissage entre les deux espèces. Et puis certains ont dit oui, mais ça veut rien dire, parce que finalement on compare des Néandertaliens qui vivaient il y a 30 000 ans à des hommes modernes qui vivent aujourd'hui. Finalement, ce n'est pas du tout comparable. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment comparer de l'ADN néandertalien à des hommes qui ont vécu à la même époque. Cette prouesse technique a été réalisée par une équipe italienne qui a travaillé donc sur deux spécimens de Cro-Magnon datés de, d'environ 24 000 ans. Lorsque l'on compare l'ADN, vous voyez que donc ces deux individus, la séquence mitochondriale comparée à la séquence de référence dont je vous parlais ce matin, on voit très très peu de différence. Par contre, quand on compare au spécimen néandertalien, vous voyez qu'il y a quand même des différences relativement nombreuses. Donc à partir de là, ça semblait être la preuve, effectivement, que nous, on avait bien deux espèces différentes. Et puis certains ont dit oui, mais non, en fait, c'est très très ancien, finalement, c'est sûrement des contaminations. Donc ces travaux ont été un petit peu remis en cause. Et en 2004, David Serre et ses collaborateurs ont décidé, cette fois, d'utiliser dans la technique d'amplification des séquences qui sont propres aux néandertaliens, pour travailler donc à la fois sur des spécimens néandertaliens et sur des hommes modernes. Et en fait, à partir de ces séquences qui utilisaient des positions qu'on retrouve que chez les néandertaliens, ils n'ont amplifié que de l'ADN chez les néandertaliens. Donc ça, ça limitait les problèmes de contamination. Et donc ça semblait apporter la preuve, effectivement, qu'on avait bien deux espèces différentes. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'au bout des années, finalement, on se retrouve avec un nombre relativement important maintenant d'individus, de spécimens néandertaliens pour lesquels on a des séquences. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on a pu établir des positions que l'on retrouve uniquement chez les néandertaliens. Donc si je prends un exemple en position 16234, vous voyez qu'à l'heure actuelle, la position au niveau mitochondrial, c'est une cytosine, alors que chez tous les néandertaliens, on retrouve une thymine. Donc ce sont des positions caractéristiques néandertaliennes, et à l'heure actuelle, on est à plus de 130, je crois, positions de ce type. Donc on a vraiment des séquences que l'on peut caractériser chez les néandertaliens. Et puis, je vous le disais ce matin, en 2005, sont nés ce qu'on appelle les nouvelles générations de séquenceurs. Donc, il y a plusieurs modèles, je vais vous faire grâce de leur fonctionnement. Mais en fait, ce qu'il faut retenir dans ces techniques, c'est que maintenant, on va travailler sur le génome entier. C'est-à-dire qu'on ne s'embête pas, on va prendre la totalité du génome, on le fragmente, et puis on va constituer ce qu'on appelle des librairies ou des banques de fragments d'ADN qu'on va marquer. Donc en fait, c'est une étude de l'ADN, mais qui se fait un petit peu de manière au hasard, dans le sens où on ne va pas cibler, comme on le faisait avec la PCR, des fragments particuliers qui nous intéressent. On séquence tout ce qu'on peut, grâce à ces méthodes de séquençage qu'on appelle également à haut débit. On séquence, on séquence, on séquence, et après on regarde ce qu'on a séquencé. Donc on ne sait pas forcément sur ce qu'on a, mais on a des quantités importantes de données. Et donc grâce à ces nouvelles technologies, eh bien, en fait, en 2008, est publiée la première séquence complète du génome mitochondrial d'un néandertalien. Donc c'est ce que je vous montrais ce matin, c'est finalement toute la molécule circulaire qui va être étudiée. Et puis, donc ça c'est en 2008, je crois que c'est l'année suivante, en 2009, ce sont cinq autres génomes mitochondriaux totaux qui sont séquencés. Donc on commence à avoir effectivement une représentation importante, 6 génomes mitochondriaux totaux, à partir desquels on travaille, on fait des arbres, et là encore on se rend compte que finalement on a une variabilité qui est bien différente de celle de l'homme moderne, ce qui allait finalement dans le sens de ce qu'on avait dit jusqu'à présent, et qu'on avait bien finalement deux espèces à part et pas de métissage. Donc vous voyez ici, c'est un petit peu un résumé, on a à peu près 11 sites qui sont étudiés, 20 séquences partielles, donc HV1 ou HV2, et 6 génomes complets. Donc le bilan de l'ADN mitochondrial, finalement la conclusion, ça a été que finalement on avait deux groupes d'hominidés qui avaient, semble-t-il, évolué de manière indépendante, qu'un croisement entre Néandertal et les hommes modernes était peu probable, et que s'il avait eu lieu, c'était vraiment de façon très épisodique. À partir de ces données, on a commencé à essayer d'avoir des chiffres tels que des effectifs efficaces, donc à partir de l'ADN mitochondrial, c'est pour ça que je parle de néandertalienne, puisque ça concerne la lignée maternelle. On s'est rendu compte qu'a priori, les populations étaient toujours de petite taille. Donc ça, c'est important, ces données, parce qu'après, ça permet d'élaborer des modèles dans lesquels, enfin, à partir desquels on va essayer déjà de corroborer ou pas des hypothèses. Et ces modèles vont aussi nous permettre de tester des hypothèses concernant l'extinction. Donc, notamment le fait que les populations soient de très petite taille, ça veut dire que les Néandertaliens ont pu, par exemple, subir des phénomènes de dérive génétique qui peuvent aussi expliquer plusieurs choses et notamment éventuellement leur disparition. On a également, grâce à cet ADN mitochondrial, mis en évidence qu'apparemment, la structure était de type clanique et de type patrilocal. Alors ça, c'est une conclusion qui a été émise à partir d'une publication parue en 2011, où vous voyez qu'en fait, cette fois, c'est un groupe de 12 Néandertaliens qui a été étudié dans une grotte, en fait, au nord de l'Espagne, dans les Asturies espagnoles, à El Cidron. Donc 12 individus composés de 6 adultes, 3 hommes et 3 femmes, 3 adolescents et 3 enfants. Et donc à partir de ce groupe, en fait, les auteurs de l'étude ont donc établi la lignée mitochondriale. Et ce qu'ils ont mis en évidence, en fait, c'est trois, ce qu'on appelle les haplotypes, ou trois séquences mitochondriales différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remarqué que autant les adultes mâles, vous voyez ici 1, 2 et le 6, vous voyez qu'ils ont tous les trois appartiennent à la même lignée maternelle qu'ils ont appelée grand A, alors que si vous regardez les individus adultes femelles, vous avez en fait trois haplotypes différents. Donc qu'est-ce que ça veut dire? À partir de ça, ils en ont conclu que finalement, les mâles en fait, étaient dans le clan de la famille, et c'est en fait les femelles, enfin, les femmes, qui quittaient leur clan pour venir rejoindre les mâles. Alors, à partir de ces travaux, ils ont également établi que vous voyez ici, vous avez un enfant qui avait 2-3 ans, ici un autre enfant de, non pardon, ici de 5 à 6 ans, donc qui tous étaient porteurs de l'haplotype C. Donc, ils en ont conclu que peut-être la maman était cette personne, cet individu, et que a priori, l'intervalle de naissance, donc, pouvait être d'environ 3 ans. Donc, là encore, alors, ce sont des données. Je pense qu'il faut prendre avec précaution. Néanmoins, ça permet toujours de donner des indications quand on fait des modèles pour essayer de chiffrer un peu les paramètres que l'on peut mettre dans ces modèles. Donc voilà en ce qui concerne l'ADN mitochondrial. Et puis, je vous le disais, grâce aux progrès technologiques, on a été capable après de s'intéresser à l'ADN nucléaire. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors qu'est-ce que ça nous a révélé? Donc vous avez deux études qui sont parues en 2006. L'une de Noonan qui décrivait en fait un certain nombre de bases, 65 000 bases donc, qui avaient été séquencées à partir d'un spécimen de la grotte de Vinja. Et curieusement, la même année, une autre équipe publie, elle, 1 million de paires de bases à partir du même spécimen, ça c'est important, avec une autre technique. Le souci, c'est que dans la première étude, les auteurs concluent que le métissage est peu vraisemblable. En revanche, la seconde, la même année, conclut qu'au contraire, il y a eu des flux génétiques entre les deux espèces. Donc ça, évidemment, ça faisait pas, c'était un petit peu douteux. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à partir du même spécimen, on a des résultats qui sont complètement contradictoires? Eh bien, c'est simplement parce que ces nouvelles technologies, à l'époque, n'étaient pas bien maîtrisées. Et l'équipe de Svante Paabo a reconnu quelques temps plus tard qu'effectivement, ils avaient eu des soucis de contamination. Donc, ils avaient fait leur banque, leur librairie dans des salles, en fait, qui n'étaient pas des salles blanches, hein, où de l'ADN moderne pouvait être présent. Et donc, en fait, ils ont reconnu qu'il y avait au moins 40% des séquences, en fait, qui étaient de l'ADN contemporain. Ce qui expliquait pourquoi, effectivement, on avait trouvé des flux géniques. Alors, cette équipe, bon, ça les a pas. Ils ont fait un petit peu leur mea culpa, donc ils ont expliqué pourquoi ils ont envoyé des contaminations. Ils ont surtout expliqué ce qu'ils allaient faire pour que ça ne se reproduise pas. Et donc, ils ont mis au point des techniques assez sophistiquées pour éviter les contaminations et essayer d'aller capturer l'ADN des Néandertaliens. Donc ce phénomène de capture, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vous explique qu'on va se servir aussi des positions spécifiques qu'on a identifiées chez les Néandertaliens pour aller repêcher les fragments qu'on pense réellement être de Néandertal. Et ça, c'est quand même très très intéressant. Parce que c'est ce que je vous disais, quand on extrait l'ADN total, on a un mélange, on a de l'ADN bactérien, on a des contaminations humaines, on a de l'ADN néandertalien et on a de l'ADN dont on ne sait pas trop d'ailleurs, qui n'est pas identifié. Et vous voyez, enfin vous ne le voyez même pas, j'imagine, que ici, quand on prend la technique classique, finalement, l'ADN des néandertaliens, ça représente une part infime. Alors que quand on utilise la technique effectivement de capture, eh bien on arrive quand même à des proportions qui sont beaucoup plus importantes, donc c'est un peu plus confortable. Donc ils ont de manière très très claire décrit toute cette nouvelle technologie, toutes ces nouvelles méthodes qui sont, je veux dire, assez impressionnantes. Et puis, en 2010, ils ont publié donc une ébauche du génome de Néandertalien. Alors, ils ont travaillé principalement à partir de prélèvements osseux réalisés sur 3 sujets féminins néandertaliens de la grotte de Vinja en Croatie. Et puis, vous avez également quelques séquences qui proviennent des spécimens d'El Cidron, de Mesmaskeia et du spécimen de Feldhofer. Je vous ai mis ici la couverture. Alors, je ne sais pas si ça vous dit grand-chose. La couverture, c'est finalement quelque part le nombre de fois où on a pu refaire le génome. Et donc là, on voit qu'on a une couverture de 1,3, ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui veut dire que finalement, on a eu une fois la séquence, mais qu'on n'a pas pu refaire. Donc, pour vous donner une idée, vous avez peut-être vu qu'il y a également un génome qui a été publié sur un spécimen trouvé au Groenland, donc dans le froid, de manière beaucoup plus conservée. Et là, vous voyez qu'on a une couverture de 20 fois. C'est-à-dire qu'on a 20 fois la même séquence. Donc là, on sait que c'est authentique si 20 fois de suite, on retrouve la même chose. Donc la couverture de 1,3, ce n'est pas extraordinaire. Hein, donc c'est des résultats qui sont fantastiques, mais il faut quand même avoir une certaine réserve. Et puis, ils ont également pu tester leur contamination, qui est de l'ordre de, enfin, inférieur à 1%, ce qui est tout à fait honorable. Mais bon, vous voyez que c'est maintenant beaucoup plus contrôlé, ils arrivent à un petit peu voir ce qu'ils ont réellement amplifié. Donc cette ébauche de génome, en fait, ils l'ont comparé à des génomes d'individus actuels, notamment un génome issu de France, de Chine, de Papouasie, et à 2 génomes africains, un d'Afrique d'Ouest, un d'Afrique du Sud. Et ce qu'ils ont mis en évidence, cette équipe, eh bien, c'est qu'on trouvait entre les génomes non africains 1 à 4% d'homologie. Autrement dit, vous avez 1 à 4% du génome des individus non africains qui proviendraient du génome néandertalien, ce qui veut dire que vous auriez bien eu un métissage représenté ici entre ces non-africains, alors qu'effectivement ce métissage ne se serait pas produit avec les Africains. Donc à partir de là, effectivement, alors là c'est très 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 discuté en ce moment, il y a des articles toutes les semaines qui sortent, c'est très très débattu, donc on ne sait pas vraiment où a eu lieu ce métissage. On n'est même pas sûr pour certains qu'il a réellement eu lieu et que ce n'est pas des retours. Mais en tout cas, ce qu'on pense, c'est que quand même, ça s'est fait hors d'Afrique, notamment au Proche-Orient. Donc le bilan de l'ADN nucléaire à l'heure actuelle, c'est que finalement, il y aurait bien eu un flux de gènes entre les deux groupes dominidés ou domininés. Que le moment où le lieu où a eu lieu ce brassage génétique, finalement, n'est pas très très clair, hein, beaucoup d'équipes en discutent, que la position phylogénétique exacte de l'homme de Néandertal n'a pas encore été établie, c'est-à-dire que ça ne remet pas en cause le fait qu'on va l'appeler Homo sapiens ou Homo sapiens néandertalensis, que pour certains, le flux de gènes ne prouve pas du tout de toute façon qu'ils appartiennent à la même espèce. Et donc, vous voyez que finalement, il y a encore beaucoup de questions, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui restent ouvertes. Et le professeur Crobizi l'a bien dit, on en est vraiment à un stade où, voilà, on a des nouvelles données, mais ça génère finalement beaucoup, beaucoup d'hypothèses et on est loin d'avoir en tout cas des réponses. Ce qui est intéressant également, c'est qu'avec ces nouvelles données sur le génome total, on a pu quand même avoir des informations très très importantes sur les Néandertaliens. Notamment, je vous parlais ce matin de gènes liés à la pigmentation. Donc ces gènes ont été étudiés, et notamment le gène MC1R, a été étudié chez deux spécimens néandertaliens. On s'est rendu compte que vous aviez une mutation, alors qui est une mutation qui n'est pas retrouvée actuellement, mais qui est une mutation qui impliquerait des phénomènes semblables à ce qu'on peut observer aujourd'hui. Et en tout cas, la conclusion a été que au moins certains néandertaliens devaient avoir la peau claire et les cheveux roux. Alors pas tous, mais qu'en tout cas, ils ont des mutations. Les mutations observées permettent de penser qu'effectivement, certains pouvaient avoir les cheveux roux. Un autre gène qui a été étudié, Eric Crubezi parlait du langage. C'est effectivement pendant longtemps, on a pensé que les néandertaliens n'avaient pas de langage articulé. On s'est rendu compte qu'ils présentent un gène, le gène FOXP2, qui est un gène qu'on a dans les populations actuelles, que ce gène est très très semblable et que donc a priori les néandertaliens avaient bien un langage articulé. Et puis de façon plus anecdotique, on s'est rendu compte qu'ils présentaient également un gène qui leur permet finalement de détecter l'amertume, et donc certains néandertaliens étaient capables effectivement de détecter les goûts amers, et que ça peut aussi avoir un impact dans la survie, hein. C'est important aussi, en dehors du fait que c'est anecdotique, c'est que ça peut aussi protéger peut-être les individus de l'absorption de certaines substances en fait qui ne seraient pas bonnes du tout pour leur santé. Donc voilà ce qu'on peut dire, on en discutera, mais sur l'homme de Néandertal. Je vais faire plaisir au professeur Brunet et parler un petit peu de cette fameuse phalange de Denisova, donc une phalange qui a été trouvée dans la grotte donc, de Denisova. Vous voyez que c'est dans les monts Altaï. Vous l'avez ici, en fait, une image 3D de la phalange qui a été retrouvée. Donc quand cette phalange a été trouvée, donc elle a été datée d'environ 30 000 à 50 000 ans. Et puis vous voyez que c'est pas très très loin de la grotte Okladnikov, une grotte dans laquelle on a retrouvé un spécimen néandertalien. Donc a priori, les chercheurs se sont dit « c'est probablement un spécimen néandertalien, l'âge peut correspondre, la localisation géographique également ». Et donc, alors toujours l'équipe de Svante Paabo a réalisé donc l'analyse du génome mitochondrial de ce tout petit morceau d'os. Et ce qu'il a observé en fait, c'est que au contraire, c'était pas du tout une séquence néandertalienne. C'était pas non plus une séquence comme on peut trouver à l'heure actuelle, mais c'était une séquence qui, quand il a réalisé l'arbre phylogénétique, vous voyez, se place en dehors donc de la variabilité humaine actuelle, et également en dehors de la variabilité des néandertaliens. Donc on le voit bien ici, c'est une branche à part. Donc là, la première réaction, ça a été de dire, oh là là, mais ce n'est ni effectivement un néandertalien, ni un homme moderne. Et en tout cas, vous voyez qu'on a commencé à émettre des dates de séparation de l'ordre de 1 million d'années. Et puis on a également, Michel Brunet l'évoquait, découvert une dent dans cette même grotte. Alors ce qui est curieux, c'est que autant au niveau de la phalange, en fait, l'ADN était extrêmement bien conservé. Et donc, on va le voir, les auteurs de l'article ont pu faire et de l'ADN mitochondrial complet et de l'ADN nucléaire. Autant à partir de la dent, apparemment, la dent était très 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 mal conservée. Donc la seule chose qu'ils ont pu faire pour l'instant, c'est travailler sur l'ADN mitochondrial. Ils se sont rendus compte que cette dent, en fait, n'appartenait pas au même individu que celui qui avait laissé sa phalange. Donc on a bien deux individus différents, hein, puisqu'il y a des différences au niveau mitochondrial. Mais bon, ils n'ont pas pu en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'il y avait déjà deux individus apparemment. Donc à partir de la phalange, la même équipe a travaillé cette fois sur le génome nucléaire et donc a publié donc l'ébauche du génome nucléaire avec une couverture, vous voyez, qui est un tout petit peu meilleure que celle obtenue pour le génome de Néandertal. Et là, curieusement, contre toute attente, quand ils ont réalisé l'arbre phylogénétique, ils se sont rendus compte que cette fois, en fait, Denisova ne se plaçait pas vraiment en dehors de la variabilité des Néandertaliens, mais en fait, ce que ça représenterait, ce qu'on peut appeler une lignée parallèle ou une liée sœur aux Néandertaliens. Et puis ils ont procédé comme ils avaient fait avec le génome, l'ébauche du génome néandertalien. Ils ont comparé donc aux 5 individus actuels. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, apparemment, il n'y avait pas eu de mélange ou de métissage, si ce n'est avec les Mélanésiens, où effectivement, selon ces auteurs, eh bien, près de 5% du génome des Mélanésiens semble dériver des Dénisoviens. Alors, bien sûr, ça a été un peu une découverte. Donc, selon les auteurs, effectivement, ces deux branches seraient séparées de l'homme il y a environ 800 000 ans, et puis entre 150 000 et 200 000 ans plus tard, eh bien, en fait, les deux branches, le Néandertal et Denisovien, se seraient elles-mêmes séparées, avec ici, vous voyez, un métissage possible avec Homo sapiens, et alors que Denisova ne s'est pas, semble-t-il, mélangé en Europe ou en Afrique avec l'homme moderne, mais plutôt, en Océanie. Donc voilà ce que disent les auteurs. Donc ce qui est important, c'est effectivement ce métissage qu'on met en évidence. Alors où ont pu se faire ces rencontres et ces mélanges, en fait, ça reste encore très très flou. Donc je vous le disais, pour ce qui concerne le métissage avec Homo sapiens, donc on pense que ça a pu se faire au Proche-Orient. Ça, c'est une des hypothèses favorisées. En ce qui concerne les Dénisoviens, c'est beaucoup plus flou, puisqu'on s'est rendu compte que finalement, quand on compare les génomes avec des Mongols, qui sont quand même très très proches, finalement, il n'y a apparemment pas eu de métissage. Et donc pour les auteurs, eh bien, le métissage se serait fait plutôt en Mélanésie, mais bon, ça reste encore à évoquer. Donc pour conclure, juste un petit bilan de tout ce qu'a apporté ces investigations paléogénomiques. Donc une chose alors qui sera peut-être discutée dans les années qui viennent, mais qui est quand même fabuleuse, c'est que finalement, on aurait identifié un groupe d'hominidés jusque-là inconnu, et ce sera à discuter, mais je ne sais pas si à partir d'une phalange, voilà, toute seule, on aurait pu le faire, donc si c'est quand même assez extraordinaire. Donc on a mis en évidence effectivement que les Dénisoviens et les Néandertaliens représenteraient deux lignées sœurs, donc ça aussi c'est joli, et surtout que finalement, c'est ce que disait Eric au début, on pensait que voilà, l'homme était sorti d'Afrique, avait tout colonisé. L'intérêt quand même de ces études, c'est qu'on met en évidence qu'il y a eu des métissages entre groupes d'hominidés anciens, et ça c'est quand même une idée qui me semble relativement nouvelle. Donc voilà, sachant que comme dit, ça peut encore évoluer, mais voilà, vous avez un aperçu de ce qui peut se faire. Voilà, je crois que je suis dans les temps. Merci.
Merci. Bien, mais la dernière communication va être faite par Nathalie Richard, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'Université du Maine, et dont les recherches portent sur l'histoire des sciences humaines et sociales. Vous avez la parole.
Je vais essayer de faire démarrer.
Pour 30 minutes.
Très bien. Alors, je veux d'abord remercier le Centre Pierre Ménès France pour cette invitation. Et ma présentation va vous faire remonter dans le temps, puisqu'on va repartir à peu près 150 ans en arrière. Et je vais évoquer des personnages qui s'attireraient maintenant les foudres de Michel Brunet, parce qu'ils font exactement tout ce qu'il nous a dit qu'il ne fallait pas faire.
Je suis plutôt paisible, hein.
dans son introduction. Donc nous sommes dans les années 1860-1870, à un moment où la préhistoire est un champ extrêmement neuf, et à un moment où on ne possède aucune des techniques qui ont été évoquées aujourd'hui, notamment aucune technique qui permettrait de dater les découvertes de manière avec des datations absolues. Donc la seule datation absolue, si vous voulez, qui sert de référence, soit pour l'accepter, soit pour la refuser, c'est une date qui vient de l'exégèse biblique, qui a été établie à partir du XVIIe siècle. Grâce donc au texte de l'Ancien Testament, certains exégètes avaient daté la création du monde donc l'apparition de l'homme, de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc la seule datation absolue, si l'on peut dire, c'est ce chiffre-là. Par ailleurs, nous sommes à une époque où on ne possède pratiquement aucune donnée paléo-anthropologique, et donc pour évoquer l'origine de l'homme, il faut se tourner vers d'autres indices que les fossiles, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. La calotte crânienne découverte à Néandertal est connue, mais elle est discutée et elle est encore très isolée. Il faudra attendre les années 80 pour avoir d'autres fragments, et puis le début du XXe siècle pour avoir des spécimens plus complets de Néandertaliens. Et en ce qui concerne Homo sapiens sapiens, il faut attendre en fait le site de Cro-Magnon, donc, découvert en 1868, pour avoir des données stratigraphiques et anatomiques un peu précises. Donc les auteurs que je vais évoquer aujourd'hui travaillent dans un champ qui est surtout marqué par l'incertitude et par les lacunes documentaires. Et ce qui va m'intéresser, c'est la manière dont ils comblent ces lacunes. Et ce que je vais essayer de mettre en lumière, c'est à quel point, pour combler ces lacunes, ils font appel à des éléments qui viennent d'un contexte culturel, intellectuel, mais aussi social et politique et religieux qui leur est propre. Alors pour bien montrer cette importance des contextes, j'ai choisi de présenter deux auteurs qui travaillent dans des contextes un peu différents, un auteur anglais et un auteur français, qui ont tous deux très fortement influencé la manière dont leurs contemporains se représentaient la préhistoire au XIXe siècle. Donc en Angleterre, John Lubbock, qui est un fils de banquier, qui a eu une carrière de banquier et d'homme politique, et qui a également mené une carrière de savant et de vulgarisateur, savant reconnu, ce qui lui a permis d'entrer dans la plupart des institutions scientifiques anglaises, notamment il est membre de la Royal Society. Il a travaillé sur plusieurs domaines, notamment il a écrit un ouvrage sur les insectes sociaux, qui est un best-seller dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle. Et dans les années 1860, il est l'un des défenseurs de la théorie darwinienne. Il fait notamment partie d'un groupe de pression qui s'appelle le X-Club, qui va militer pour défendre les idées de Darwin. Et c'est à cette période qu'il réalise une série de conférences sur la préhistoire qui donneront naissance à deux ouvrages, dont le principal est celui-ci, Prehistoric Times, donc de 1865. Ouvrage qui est un ouvrage à grand succès, il y a 7 éditions successives du vivant de Lubbock. Donc on peut considérer, sans grand risque d'erreur, que la manière dont les Victoriens se représentaient la préhistoire est fortement influencée par cet ouvrage. Alors en France, l'équivalent de Lubbock, c'est Gabriel de Mortillet, donc, qui publie en 1883 une synthèse sur la préhistoire, mais la plupart des principes qui organisent cette synthèse ont déjà été présentés dans d'autres publications, et y compris dans des publications dans des cadres qui ont touché un large public. Donc Gabriel de Mortillet, après une jeunesse politique radicale qui lui vaut un exil en 1848, revient en France dans les années 60. Il est alors attaché au musée nouveau, au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Et il va occuper une place très influente dans les institutions de la préhistoire qui se mettent en place dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il est le créateur de la première revue spécialisée en préhistoire et il est l'un des fondateurs et l'un des organisateurs des congrès internationaux de préhistoire qui vont se réunir régulièrement à partir de 1866. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est essayer de comparer la vision de la préhistoire que ces deux auteurs présentent, en montrant à la fois les points communs qui existent entre ces deux synthèses et leurs différences. Le premier point commun, c'est que ces deux personnages ne sont pas des hommes de terrain, mais des hommes de collection ou des savants de cabinet. Ceci est lié, à la structure sociale des communautés savantes au XIXe siècle. Pour acquérir du prestige social dans le milieu des sciences naturelles au XIXe siècle, il est plus utile d'avoir accès aux collections les plus prestigieuses et les plus complètes possibles collections qui ne sont pas toutes publiques hein, au XIXe siècle, plus utile que d'avoir une pratique de terrain. Donc le rapport aux collections et la manière dont, en quelque sorte, on assoit son autorité savante. Alors les deux auteurs en ont bien conscience. Je vous ai mis ici une petite citation tirée de l'ouvrage de Lubbock, mais on trouvera la même chose dans les textes de Mortillier, hein, où il explique que pour... C'est un amateur complet, il n'a jamais fait de préhistoire avant les années 60, comme beaucoup d'auteurs, puisque le champ est tout à fait neuf. Il explique que pour obtenir les qualifications qui lui permettent de prononcer ses conférences, puis de publier cet ouvrage, il a fait le tour des grandes collections européennes. Donc, de fait, Lubbock et Mortillier vont fonder en grande partie leur synthèse sur l'histoire la plus ancienne de l'humanité, sur des collections, et sur deux collections qui ont des statuts et des contenus assez différents. Celle de Lubbock est une collection privée, donc bien sûr il a visité toutes ces collections européennes, mais la principale qui va servir d'illustration dans son ouvrage, c'est la sienne propre. Donc il vient d'une famille aisée, hein, de la finance londonienne, et il commence à réunir une collection dans les années 1860, au moment où il prononce également ses conférences, collection qui sera présentée, enfin qui sera exposée dans sa demeure privée, donc qui se trouve près de la demeure de Darwin Adam. Donc ils ont des liens assez étroits. Donc et dans cette demeure, donc il réunit sa propre collection, collection dont le sens est également donné par toute une série de tableaux qu'il a commandés à un illustrateur très célèbre à l'époque, qui est Ernest Griset. Donc de scènes préhistoriques qui sont également exposées chez lui, en même temps que les objets qui composent cette collection. Alors, ce qui caractérise cette collection, c'est qu'elle comporte à la fois des objets archéologiques qui viennent d'un peu toute l'Europe, que Lubbock achète principalement, et des objets ethnographiques. Et il faut souligner ici le lien très étroit qui existe entre le contenu de la collection et le contexte impérial dans lequel ces collections sont réalisées. C'est-à-dire que cette collection, elle reflète le fait que l'Angleterre est un pays qui possède ou qui règne sur un grand empire colonial à cette période. Et donc, elle comporte à la fois des objets qui viennent des colonies et des objets archéologiques. Alors, la collection sur laquelle Mortillier va fonder l'essentiel de sa réflexion, elle est différente, puisque c'est la collection qui est réunie au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Donc j'ai trouvé ici des illustrations qui datent un peu plus tard, mais qui donnent une idée de la muséographie au XIXe siècle. Ce musée est un musée nouveau qui a été créé sous le Second Empire par Napoléon III. Au départ, il s'agit d'héberger les collections qui ont été rassemblées dans les fouilles gallo-romaines qui ont été financées par l'empereur, notamment en quête du site d'Alésia, le but hein, étant de renforcer la symbolique impériale par des liens entre l'Empire romain et le Second Empire. Mais assez rapidement, le projet va être modifié par des dons de collections d'objets préhistoriques qui sont faits à l'empereur, des dons qui viennent du roi du Danemark, puis de Boucher de Perthes, qui est l'un des premiers préhistoriens qui travaille sur le paléolithique en France. Alors cette collection, outre qu'il s'agit d'une collection publique et pas d'une collection privée comme celle de Lubbock, elle a une autre différence, c'est qu'elle ne comporte que des objets archéologiques. Il n'y a pas dans la France du XIXe siècle, enfin de ces années-là, de collection ethnographique publique d'importance. La première sera organisée et montrée au musée ethnographique du Trocadéro en 1878. Et la France, dans les années 1860, n'est pas une puissance coloniale majeure, loin de là. Alors, un point commun entre ces deux collections, c'est qu'elles sont essentiellement, ce sont essentiellement des collections d'objets qui viennent de la culture matérielle, hein, pas de fossiles, pas d'ossements, très peu de fossiles et pas de fossiles humains dans ces collections à cette époque. Alors, on voit très bien l'usage qui est fait de ces objets dans la manière dont sont conçus les ouvrages que je vous ai présentés, parce qu'en fait, il repose beaucoup sur l'association d'un texte et d'illustrations. Le texte de Lubbock comporte de très nombreuses planches. Beaucoup sont tirés, donc des objets qui sont représentés sont tirés de la collection de Lubbock lui-même. En ce qui concerne Mortillet, l'ouvrage que je vous ai présenté est en fait le volet d'un diptyque qui est aussi constitué par un autre ouvrage intitulé Musée préhistorique, qui est un ouvrage exclusivement composé de planches. Alors, ce qui se produit, c'est un effet de circularité entre la théorie et la collection, c'est-à-dire que la collection va servir à élaborer la théorie, et une fois que la théorie est élaborée, elle sert à classer la collection, et la collection devient la démonstration de la théorie. Donc ça, c'est important de repérer cet effet de persuasion entre la collection et la théorie. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, de ressemblance et de différence entre ces deux synthèses, c'est que ce sont toutes les deux des synthèses évolutionnistes. C'est-à-dire que toutes les deux proposent une vision de l'histoire, la plus ancienne de l'humanité, sous forme d'une évolution. Néanmoins, comme on va le voir, ces synthèses s'inspirent de modèles différents. Et donc, elles sont assez différentes dans leur formulation. Alors, Gabriel de Mortillet, je vous ai mis ici les premiers textes où il formule de manière synthétique sa vision, donc entre 1869 et 72, formule une vision de la préhistoire qui est fortement conditionnée par les conditions de son élaboration, notamment par le fait qu'à Saint-Germain, il va être attaché au musée pour classer des collections qui ont déjà été déposées, en quelque sorte, dans les réserves de Saint-Germain. Donc, il possède des caisses d'objets qui viennent du Danemark et de plusieurs préhistoriens français, avec pas ou peu d'informations sur les contextes de découverte des objets. Et une grande partie de l'élaboration théorique de Gabriel de Mortillet va être de transformer cette lacune, ce manque, en un atout, et donc de démontrer que ce sont les objets eux-mêmes qui parlent, bien plus que ce qu'on pourrait dire à l'aide des conditions paléontologiques ou géologiques de découverte des objets. Alors pour ça, il va notamment s'attacher à critiquer une proposition de classification des objets antérieure, qui est celle d'Édouard Lartet, qui était un paléontologue, et qui lui avait effectué un travail sur le terrain dans la vallée de la Vézère, et qui, à partir de ce travail, avait formulé une proposition de classification biochronologique, on va dire, donc par les faunes associées aux objets découverts, donc distinguant pour les objets de la pierre taillée trois époques, hein, celle du grand ours, celle du mammouth et du rhinocéros, et puis celle du renne. Donc Mortillet construit une grande partie de sa rhétorique de démonstration sur le fait que ces transformations phoniques seraient trop lentes et pas assez abruptes, donc il y aurait des phases de transition trop longues, pour que l'on puisse s'en servir pour dire quelque chose des transformations qui affectent l'espèce humaine. Il préconise donc de s'en tenir à une méthode qu'il appelle archéologique, donc de s'en tenir à ce que disent les objets. Et il va donc classer les objets des collections de Saint-Germain en fonction de deux critères. Un critère technique, plus un objet réclame de gestes techniques, plus il est récent. Et un critère fonctionnel, plus l'outillage est spécialisé sur le plan fonctionnel, plus il est récent. Donc ceci lui permet de ranger les objets en grandes catégories qu'il va nommer d'après les sites éponymes qui lui paraissent les plus caractéristiques, hein, en inventant des noms qui sont restés dans la préhistoire jusqu'à nos jours, hein, l'Acheuléen, le Moustérien, le Magdalénien, etc. Alors cette séquence, il la transforme en récit, et pour cela il lui faut une dynamique, et cette dynamique il va l'emprunter à un modèle évolutionniste, puisque je vous ai dit que c'était une synthèse évolutionniste, et Mortillet emprunte ce modèle évolutionniste à Lamarck. Alors Mortillet, effectivement, il fait partie d'un groupe de militants de la cause lamarckienne qui, dans les années 1860 et 1870, vont essayer de soutenir que Lamarck a tout inventé et que Darwin n'est qu'un héritier qui aurait repris l'essentiel de la théorie lamarckienne. Et donc, qui, pour des raisons à la fois intellectuelles et patriotiques, on va dire, vont essayer de faire réémerger la figure de Lamarck en finançant et en organisant des conférences sur le lamarckisme et notamment en organisant la première réédition de la philosophie zoologique de Lamarck en 1873. Donc, le schéma qui sous-tend la vision de Mortillet est un schéma lamarckien, mais qu'il va appliquer à des silex taillés. Donc le scénario est le suivant. Tout part de transformation, comme chez Lamarck, hein, de transformation du milieu. Donc Mortillet va s'inspirer des théories des glaciaires, des glaciations, hein, qui ont été élaborées très peu de temps auparavant par les géologues, en les simplifiant, puisqu'il considère qu'il y a eu une seule glaciation. Donc l'homme, l'espèce humaine serait apparue avant la glaciation, et l'histoire de l'homme est marquée par une adaptation d'abord au refroidissement du climat, puis au radoucissement. Donc le point de départ, hein, c'est la transformation des circonstances lamarckiennes, donc du milieu, par des transformations climatiques. Donc cette transformation climatique induit des transformations biologiques, transformations biologiques qui se traduisent, pense Mortillet, par un accroissement notamment de la capacité crânienne, hein, du cerveau, qui dit accroissement donc du cerveau dit, toujours selon Mortillet, accroissement des capacités mentales, et accroissement des capacités mentales, développement technologique et des capacités symboliques de l'être humain. Alors on a un scénario parfaitement linéaire que Mortillet présente en termes de progrès et qui surimpose, en les confondant totalement, évolution climatique, évolution biologique, évolution technologique, évolution culturelle. Alors la vision que va présenter Lubbock dans son ouvrage Prehistoric Times est très différente. Elle va fonctionner sur d'autres principes et sur d'autres méthodes. Le sous-titre de l'ouvrage, je vais revenir à ma... l'ouvrage Prehistoric Times vous indique la méthode qui va être privilégiée par Lubbock, donc « As illustrated by ancient remains and the manners and customs of modern savages ». Et les mœurs et les coutumes des sauvages modernes. Donc ceci, bien sûr, est lié au contenu même de la collection de Lubbock, qui juxtapose des objets archéologiques et des objets ethnographiques. Et c'est donc un comparatisme ethnographique, ce qui n'est pas une invention de Lubbock, hein, puisqu'on voit des antiquaires commencer à utiliser cet outil d'analyse dès la fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle en Europe. Et donc c'est donc au comparatisme ethnographique que Lubbock emprunte les clés d'interprétation des objets. Donc il va, pour sa part, considérer que la méthode archéologique n'est pas suffisante, que c'est la méthode ethnographique qui peut véritablement faire parler les objets. Donc j'ai également une petite citation, je vous mettrai. Donc, notamment comparant les méthodes de l'anatomie comparée avec la fertilité des méthodes de l'anatomie comparée au XIXe siècle avec la fertilité potentielle du comparatisme ethnographique pour l'archéologie. Alors, donc l'une des différences, hein, c'est cet usage de la méthode ethnographique, mais une autre différence, c'est le modèle évolutionniste auquel Lubbock fait référence. Le mot-clé dans l'ouvrage de Lubbock, c'est le mot de civilisation, qui est employé de manière récurrente et qui renvoie à une vision du progrès des mœurs qui s'inspire de l'histoire conjecturale du XVIIIe siècle, hein, celle de Hume, de Ferguson, de Turgot ou de Condorcet en France, qui s'inspire de ces constructions des Lumières, mais qui renvoie plus directement à un modèle évolutionniste que Lubbock emprunte au camp darwinien. Alors, néanmoins, ça n'est pas à Darwin que Lubbock peut faire référence, puisqu'on est dans les années 60. À cette date, Darwin ne s'est pas véritablement prononcé sur cette question. On a vu que la descendance, ou la filiation de l'homme, date de 1871. Et dans l'origine des espèces, l'homme n'est pas exclu, mais il n'y a aucune partie consacrée explicitement ou spécifiquement à l'évolution humaine. En fait, l'inspiration de Lubbock, c'est Wallace. Et c'est ce très célèbre texte qui a été prononcé à la Société d'anthropologie de Londres en 1864, donc sur les origines des races humaines et l'antiquité de l'homme, déduite de la théorie de la sélection naturelle. Dans ce texte, Wallace décrit en fait un effet de seuil qui se produit à partir du moment où l'homme aurait acquis des capacités cérébrales, mentales et techniques suffisantes. À partir de ce moment-là, dit Wallace, l'homme possède des outils pour résister à la sélection naturelle. Et donc l'évolution humaine, dès que l'homme devient social et technologue, on va dire, cesse d'être une évolution biologique. Elle devient une évolution technique, hors des logiques de la sélection naturelle. Et c'est ce modèle-là que Le Bock transpose à la préhistoire. Donc il va insister longuement dans son ouvrage sur le fait que ce qui évolue dans l'histoire la plus primitive de l'homme, ça n'est pas le corps, même s'il admet que sans doute le corps humain a pu se transformer, mais ce qu'il appelle l'esprit, mind, et les techniques et la culture. Donc l'histoire qu'il fait, c'est bien une histoire de l'évolution, mais de l'évolution de la civilisation, de l'esprit humain, des mœurs humaines, et pas une histoire de l'évolution biologique. Donc il y a là une vraie différence avec Mortillet, hein, puisque chez l'un, on a une confusion absolue des deux évolutions, et chez Le Bock, une distinction en fait des deux. Alors j'en arrive très brièvement à mon dernier point, qui est d'essayer de replacer cette différence dans un contexte philosophique et politique. Les deux auteurs que j'ai évoqués ont mené en parallèle une carrière scientifique et une carrière politique, donc ça n'est pas faire tordre en quelque sorte leur conception que de proposer de les replacer dans un contexte politique. Le Bock a été député du Parti libéral à la Chambre des communes à partir des années 1870. Il a été actif notamment dans les débats sur l'éducation, dans les débats sur la législation sociale et dans les débats sur la protection du patrimoine. Mortillet, quant à lui, est un membre du Parti radical en France et il a été élu maire de Saint-Germain-en-Laye dans les années 1880 et également député dans la deuxième partie des années 1880, donc député radical à la Chambre des députés. Il a donc participé au débat de la deuxième moitié des années 80 sur le colonialisme, sur la laïcité. Alors, par ailleurs, dans leurs écrits, ces deux auteurs manifestent clairement la conviction qu'il y a une continuité entre science et politique. C'est pas très original au XIXe siècle, hein, ils s'inspirent à la fois du positivisme d'Auguste Comte et surtout à l'époque de la philosophie d'Herbert Spencer, qui est un philosophe oublié de nos jours, mais qui, dans les années 1870-1870, est en Europe sans doute le philosophe le plus publié et le plus lu. De fait, hein, donc leur synthèse ne prennent sens que sur l'arrière-plan, en quelque sorte, de cette conviction qu'il y a une continuité entre la science et la politique. Je vous ai ici reproduit les derniers paragraphes de Prehistoric Times de Le Bock. On voit très bien hein, comment son ouvrage se termine sur une sorte de plaidoyer sur la capacité de la science à réformer la société. Alors, on a vu déjà que la synthèse proposée par Le Bock prend sens dans le contexte de l'impérialisme de l'Angleterre victorienne, mais je voudrais ajouter ici que, à la fois, les propositions de Le Bock et celles de Mortillet prennent sens dans les débats qui sont différents en France et en Angleterre, qui concernent les relations entre science, politique et religion. Ce sont des débats très vifs dans les deux pays, mais avec des connotations et des accents différents. En Angleterre, dans les années 1850-1870, il y a deux enjeux majeurs. L'un des enjeux, c'est l'enjeu de la sécularisation des activités intellectuelles, ou des professions intellectuelles. En effet, les deux grandes universités britanniques, hein, Oxford et Cambridge, sont alors réservées, qui concernent les enseignants, sont encore réservées à cette époque, aux anglicans, et notamment aux membres du clergé anglican. Donc une grande partie de l'activité intellectuelle se passe en dehors des universités britanniques, et un des enjeux des conflits et des polémiques dans ces années-là, c'est la reconnaissance d'une sorte de légitimité savante pour les groupes séculaires, en quelque sorte laïques. Voilà. C'est notamment une des grandes causes pour laquelle militent les membres du X-Club dont j'ai parlé tout à l'heure. Une autre difficulté, un autre débat qui agite l'Angleterre dans ces années-là, c'est celui de la contradiction entre les théories darwiniennes et l'orthodoxie chrétienne dans ses formes les plus traditionnelles. Alors, en Angleterre, très rares seront les défenseurs de la théorie darwinienne qui vont s'appuyer sur cette théorie pour faire profession de d'athéisme ou d'agnosticisme. Il y a un seul, pratiquement un seul exemple qui est Huxley, donc l'un des disciples de Darwin. Tous les autres, en fait, vont essayer de trouver des formes de conciliation entre le darwinisme et des formes de religion. Ils partagent, pour la plupart, la conviction que, même si eux-mêmes ne sont pas nécessairement très, très croyants, que les valeurs religieuses sont la base de l'ordre social. Ce sera terminé. La base de l'ordre social en Angleterre, et aucun d'entre eux ne souhaite remettre en cause cet ordre social. Donc ils vont donc s'efforcer essentiellement de trouver des formes de conciliation. Donc Lubbock, par exemple, commence Prehistoric Times en citant l'évêque de Londres et en affirmant que la science qu'il va évoquer ici, la préhistoire, ne remet aucunement en question la validité de la religion. Son insistance sur la dimension spirituelle, en quelque sorte, de l'évolution humaine, permet cette conciliation. En France, à l'inverse, les débats sur ces questions sont beaucoup plus polarisés. La question de la laïcité va prendre des dimensions beaucoup plus radicales à la fin du Second Empire et au début de la Troisième République, à une période où la République n'est pas du tout assurée. Et le ton de Mortillet est bien différent, et la reconstruction qu'il propose de l'histoire primitive de l'homme est elle aussi bien différente. Mortillet est un anticlérical militant, un libre penseur, et il voit la relation entre science et religion comme une guerre inévitable, en quelque sorte. Il est convaincu que les avancées scientifiques ont pour but de faire reculer, ou nécessairement faire reculer la religion, qui est entendue comme une force rétrograde, et donc comme une force déstabilisatrice. Pas comme une force stabilisatrice de la société, mais comme une force déstabilisatrice de la République. Alors, je vais m'arrêter là, juste pour conclure, pour dire qu'il me semble que ce qui est intéressant dans ces deux synthèses, c'est à quel point elles révèlent que les lacunes, dès que l'on touche à l'histoire la plus ancienne de l'espèce humaine, combler la lacune est intimement liée au contexte, quel qu'il soit, dans lequel on produit les théories. Et la deuxième chose, bien sûr, qui est très nette dans ces deux synthèses évolutives, c'est qu'elles se construisent sans la paléoanthropologie, puisqu'on est, en gros, avant que les données soient suffisantes pour produire une possible théorie à partir des données fossiles. Voilà. Merci.
Merci bien. Merci d'avoir respecté le temps, contrairement aux deux qui ont commencé ce matin. Ah oui, je me souviens. Hein. Bon, si vous voulez bien, l'ensemble des intervenants, vous allez me rejoindre là, je me sentirai moins seul.
Si tout le monde peut s'asseoir, c'est pas sûr.
Et on va débattre ou essayer de répondre aux questions posées. Et je vous en prie, ne me laissez pas seul là. Soyez pas timide. Allez, Christine, ne sois pas timide. Je sais bien que tu préfères rester à côté de ton maître, mais quand même.
Répétez-le, des fois j'arriverai à le croire au bout de
des. On a fait la photo tout à l'heure, il fallait faire maintenant.
Ça, c'est ce que vous avez décidé tout à l'heure. Hein. Ouais. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Telle était votre demande et. On a essayé d'y satisfaire dans la mesure de nos possibilités. Bon, madame, je vous en prie. Bon, ben vous avez la parole, hein, on a beaucoup parlé, nous. Alors allez-y, hein, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-les. Soyez pas timide, ça sert à rien, on est entre nous, personne ne le répétera. Oh non, c'est pas le moment des photos, c'est le moment des questions. Allez. Oui.
Attendez, le micro.
Vous présentez, s'il vous plaît, quand vous posez une question, parce que c'est pour l'enregistrement.
Ah, Mathieu Régnac, l'université. Ma question, c'est concernant l'hybridation entre Néandertal et Homo sapiens. Donc, en fait, c'est la même espèce, c'est pas la même espèce, d'une part. Et d'autre part, on a un seul exemple de Néandertal séquencé. On ne sait pas si les hybridations, c'est toujours la même séquence d'hybridation qu'on retrouve dans le génome humain ou non.
Alors, vous avez raison, on a pour l'instant un seul spécimen. Donc, on ne sait pas. Et pour répondre à votre question, on n'a pas non plus répondu à la question est-ce que c'est la même espèce ou pas la même espèce. Pour l'instant, on a ces résultats. Et je crois qu'on attend vraiment d'avoir davantage de spécimens pour être plus sûr et pour répondre à ce genre de questions. Mais vraiment, on est dans une période où il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de pour, de contre. Mais je crois qu'il faut attendre et que maintenant que les techniques commencent vraiment à être un peu plus fiables, on va rechercher d'autres spécimens et ça va probablement s'affiner dans les 2-3 ans qui vont venir.
Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de cela, mais je voudrais souscrire à ce qu'a dit Christine. Et dans ce qu'elle a dit, il me semble que, je l'ai dit un peu ce matin, mais vraiment, le plus important de cela, ce n'est pas tellement de savoir si une belle néandertalienne s'est fait enlever par un beau sapiens, mais le plus important, c'est la technique. Ils ont fait des progrès absolument faramineux, prodigieux, et c'est ça qui est important. Et à l'heure actuelle, Christine a bien montré que, dans le fond, eh bien, tout ce qui a été dit, on n'en sait rien. Pabot lui-même et son équipe, et Dieu sait si, à l'heure actuelle, Pabot, chapeau bas, parce qu'il a fait des tas de choses. Mais lui-même a reconnu, il a fait un article, et Christine l'a souligné, pour dire, bah, dans le fond, hein, il y avait des pollutions. Bon, on est au début de quelque chose, on n'est pas à la fin de quelque chose. Et je crois que nous, en tant que tels, ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est cette technique qui est en train d'exploser et qui nous permet maintenant de séquencer un génome complet d'un fossile. Ça, c'est extraordinaire. Et alors, partout dans la presse, c'est est-ce que... Bon... Je crois que ça reste, à mon sens, accessoire. Alors, c'est pour eux comme pour nous, il n'y a pas assez de fossiles et puis ben, il n'y a pas assez de séquences. Voilà, alors ça viendra en son temps. C'est la génération nouvelle qui fera ça.
C'est une question importante quand même.
Je pense qu'elle est importante. Est-ce que c'est une évolution linéaire? Est-ce qu'il y a des hybridations?
Mais ce n'est pas une évolution linéaire.
Non, mais...
Quoi qu'il arrive, ce n'est pas une évolution linéaire.
C'est à partir d'un groupe d'individus qui migrent et puis qui restent isolés et puis qui évoluent de ce type-là. Enfin,
bon, Christine n'a pas parlé beaucoup des caractères anatomiques entre néandertaliens et sapiens, mais je vous assure qu'il y a des caractères, par exemple, sur le crâne. Les erectus ont un crâne en tente, les sapiens ont un crâne en pente, les néandertaliens ont un crâne elliptique en section. C'est-à-dire que leur crâne, à ce point de vue, est plus dérivé. Ça, c'est de l'anatomie.
Oui, ça marche. Oui, votre question est importante, je dirais, de façon plus générale, peut-être. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que ça remet en compte qu'est-ce que c'est qu'une espèce. Parce qu'en gros, si on prend les études qui ont été faites, qui sont faites d'une façon générale, pendant très longtemps, d'ailleurs, notre collègue le disait, les études sur l'évolution et sur ce que c'est une espèce, ce sont des études qui se font sans prendre en compte l'homme. D'accord ? Et puis ensuite, quand l'homme est pris en compte, curieusement, c'est souvent ce qui est mis en exergue chez l'homme qui va servir d'exemple pour le reste. Et là, si vous voulez, avec Néandertal... en dehors de toutes les réserves qui sont émises sur effectivement plus son droit de donner, etc. En gros, on retombe sur des données qui avaient été exposées par Gould dès les années 70-80, qui étaient combien de temps faut-il pour faire une espèce ? Et Gould disait, ça va très vite, chez les mammifères, 1 million d'années. D'accord. Donc ça voudrait dire que depuis 1 million d'années, effectivement, les Denisova, ce serait maximum 1 million d'années, si vous voulez. Donc depuis 1 million d'années, il y a des espèces qui sont en train de se différencier morphologiquement, mais rien n'empêche qu'elles se recroisent après, quoi. Et quand je disais on est en train d'exploser, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un homme moderne, en fait, je pense que dans quelques années, ça c'est une intuition, c'est pas une donnée scientifique, si vous voulez, c'est une intuition qui est basée sur ce qu'on voit actuellement. Actuellement, par exemple, on voit que sur le génome de sujets africains, d'Afrique subsaharienne, on pourrait dire, là, on a les homo sapiens vraiment les plus purs. Ils ne se sont pas croisés avec personne. Mais en fait, quand on regarde bien les articles qui sortent, les auteurs disent, ah, mais peut-être dans ce génome, il reste de gènes de plusieurs hominidés, mais qu'on n'a pas encore repérés. Et en fait, on va s'apercevoir que l'espèce dite homo sapiens, c'est une mosaïque. D'accord. Et ça, si vous voulez, c'est une idée qui est une idée, je dirais, qui est une idée personnelle, mais on voit à peu près comment ça évolue. Ça va donner qu'est-ce que c'est comme espèce. Pour rebondir sur ce que disait Michel, il y a quelques années, je vous épargne les termes scientifiques d'ailleurs, dont je ne suis pas du tout un spécialiste des tortues, mais il y avait une espèce de tortue dont on pensait qu'elle avait disparu. On l'a séquencée en ADN ancien et on a regardé une autre espèce de tortue qui, elle, vit toujours. Et morphologiquement, elles étaient très différentes. L'espèce de tortue qui vit toujours a 70% des gènes de l'espèce disparue. Alors ça, c'est, quand on dit 70% des gènes de l'espèce disparue, ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où est l'espèce, si vous voulez. Et donc, effectivement, c'est ce qui est intéressant. Alors, on ne peut pas répondre, Christine Kaiser l'a dit et Michel Brunet l'a souligné, à la question sur Néandertal. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est oui ou non, si vous voulez. Mais en tout cas, ce qu'on peut répondre, c'est que ça nous fait sérieusement évoluer les idées sur ce qu'est une espèce, d'accord, et comment a évolué l'espèce humaine actuelle.
Merci. Oui, monsieur.
Vous pouvez avancer, hein. Il y a de la place.
Oui, venez par ici, là, il y a plein de place. Là.
Bonjour, je suis Frédéric Bonin, je suis de l'Université d'Orsay, mais absolument pas des domaines scientifiques qui ont été discutés aujourd'hui. Donc une question très naïve, est-ce qu'on pourrait avoir un ordre de grandeur du nombre de spécimens de chaque espèce sur lesquels vous travaillez ? Combien d'Homo sapiens, combien de Néandertal, et en remontant comme ça dans le temps, statistiquement, combien d'échantillons ? De quelle taille sont vos échantillons, s'il vous plaît ?
Alors, je vais répondre, si vous voulez, mais... Votre question, elle est biaisée. Parce que vous avez, à la fin, vous avez dit statistiquement, si vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon échantillon. Un bon échantillon est meilleur, si vous voulez, qu'un échantillon complet, qu'un échantillon mauvais. D'accord. Donc, il y a ces deux questions. C'était cette question, je répondrai. Souvent, les statisticiens ont tendance à dire, mais est-ce que ces échantillons sont suffisants ? Monsieur De Bonis, Monsieur Brunet, qui sont nos maîtres en paléontologie, vous direz que finalement, ce sont les éléments d'un clade. Un seul suffit. D'accord. C'est, ensuite, savoir qu'est-ce qui font partie de la même population, c'est différent. D'accord. C'est différent. Donc il y a des questions, si vous voulez, du point de vue cladistique, un seul échantillon suffit. Donc ça, c'est une première chose. Et il vaut mieux avoir un très bon échantillon, d'accord, que, je dirais, plusieurs échantillons. Parce que, par exemple, si on prend le cas... Et ensuite, la question qui se pose, qui n'a pas été posée, mais en fait qui a été posée de façon indirecte par un monsieur qui vient de poser la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une espèce, qu'est-ce que c'est qu'un genre, d'accord. Ça devient très difficile, parce que quand, par exemple, c'était la question de notre collègue ce matin dans la vallée de l'Homo, on dit là, on a des australopithèques, là, on a des homos, etc. Ça, c'est une, je dirais... c'est effectivement, il y a des auteurs qui segmentent, mais savoir si ce qu'on appelle premier homo habilis, il y a pour des chercheurs, c'est les derniers australopithèques. D'accord. Donc ce qui veut dire que déjà, si vous voulez, dans votre question, répondre à cette question de façon stricte et tranchée, ça voudrait dire qu'on sait exactement qui sont les homos, qui sont exactement ce qu'est un australopithèque, qu'on a une bonne définition du genre homo, qu'on a une bonne définition du genre australopithèque, etc. etc. Donc ce qui fait que Je ne vais pas noyer le poisson et je vais vous répondre, mais votre question derrière, il y a une question qui intéresse les statistiques, premièrement. Cette question, elle est, je dirais, pas forcément appropriée, parce qu'on ne parle pas finalement en termes de dimension d'échantillon, d'accord ? En ce qui concerne Homo sapiens, nous sommes 6 milliards d'individus. Ce qu'on sait...
7.
Pardon, oui, j'ai pris un mois de retard. S'il y a un mois, on est passé à 7. Et on est 7 milliards d'individus, mais effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce que la variabilité d'Homo sapiens est bien connue, si vous voulez ? Parce que la variabilité physique d'Homo sapiens est bien connue. Je vous prends un exemple qui est très simple et que vous allez comprendre immédiatement. Les Homo sapiens sont caractérisés par un menton qui est proéminent. Il y a quand même un article publié il n'y a pas si longtemps que ça dans PNAS qui dit qu'il y a certains aborigènes des îles en Indonésie qui auraient une absence de menton. Pour moi, c'est quelque chose, ça fait partie d'une, c'est une partie de l'article, mais pour moi, ça me laisse stupéfait. Il y a une vague radio qui laisse passer ça, si vous voulez. Mais si c'est vrai, ça nous change d'un point de vue anatomique quand même beaucoup de choses du point de vue de la variabilité. Donc, alors, c'était pour vous répondre à votre question, alors qu'on est 7 milliards d'individus, d'accord, des squelettes d'Homo sapiens sapiens, il y a eu à peu près 6 millions de momies qui ont été examinées par égyptiennes, qui ont été sorties, dont la plupart ont été examinées par des anthropologues au moins une fois, d'accord. Mais sur la fréquence du menton, on n'en sait rien. Alors, pourtant, on a un échantillon qui est énorme. Mais est-ce qu'il existe réellement chez Homo sapiens un seul sujet qui aurait une absence de menton et qui ne soit pas pathologique ? Ça, c'est une vraie question, si vous voulez. Donc, en gros, souvent, on se dit, il n'y en a pas beaucoup, mais les australopithèques, notre collègue ce matin qui a présenté la séquence de l'Homo, vous l'a dit, il y a des restes avec plus de 100, 170 sujets, je veux dire. Les restes de néandertaliens en Europe, c'est plus de 300. Il y a plus de 300 sujets néandertaliens connus actuellement en Europe. Mais des restes complets, c'est-à-dire tout le squelette, il y en a très peu, moins d'une dizaine. D'accord ? Certains sont connus que par quelques éléments. Donc, ça veut dire que des restes d'Homo sapiens, on en a des milliers. Des restes de néandertaliens, on en a plus de 300. Mais s'ils commencent à s'hybrider avec des hommes modernes, qu'est-ce que c'est qu'on appelle un homme moderne ? Qu'est-ce que c'est qu'on appelle un néandertalien ? La question devient floue dans l'échantillon, si vous voulez. Et ainsi, de suite, en remontant, il reste très clairement d'Australopithèques, Michel Bounet sera certainement beaucoup plus précis que moi, mais des sujets, quand je discute avec José Braga, il y a plus de 300 sujets qui sont connus parmi les Australopithèques, hein, pour lesquels on n'a pas forcément des définitions, d'ailleurs. Chacun n'a pas forcément été décrit, mais des restes attribuables à des sujets différents, Michel pourra certainement préciser. Et puis ensuite, évidemment, ça devient... plus petit, et je crois qu'il faut se souvenir de ce que disait M. De Bonis ce matin au cours de sa conférence, et c'est finalement là que c'est intéressant. C'est plus le nombre d'échantillons, c'est qu'à un moment, il vous a dit, mais on ne sait plus trop finalement qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est telle espèce, parce qu'on essaie de les mettre dans des cases, d'accord ? Et donc, répondre à votre question, ça voudrait dire que l'anthropobiologie actuellement, ce serait d'essayer de mettre des sujets dans des cases. Et ça, notre collègue l'a bien montré, c'était une technique qui était du 19e siècle. Actuellement, on réfléchit plus sur les concepts, si vous voulez, comment les espèces, tout ça, a évolué au cours du temps. Comment on est passé de l'un à l'autre, mais ensuite vouloir les mettre dans des cases et puis dire, ben là, on en a 300, et puis là, on en a 100 à côté, là, on se trompe, si vous voulez. Ça, c'est une évidence qu'on se trompe. Donc ça, c'est un premier élément. Et alors ensuite, sur le point de vue statistique, vous avez raison, plus nous augmenterons les nombres, mieux ce sera, d'accord ? Mais en ce qui concerne, par exemple, l'ADN mitochondrial des Néandertaliens, les chiffres sont relativement clairs. On peut même faire des études statistiques dessus. Et ensuite, je dirais, pour conclure, il y avait cette phrase de Bernard van der Merch pour donner la parole à nos maîtres, qui avait été attaqué comme ça par un généticien à la télévision, qui lui avait dit « Mais qu'est-ce que vous pouvez en dire ?» Et Bernard van der Merch lui avait répondu « Monsieur, malgré l'insuffisance des fossiles, qui oserait prétendre que depuis la fin du XIXe siècle, nous n'avons pas évolué dans la connaissance des origines de l'homme ?» Et c'était, je dirais, une belle phrase, parce qu'effectivement, la question des échantillons est cruciale, mais ils sont souvent biaisés, et ce qui est important, c'est plus certaines attributions que d'autres choses. Voilà. Je pense que Michel peut plus répondre sur des questions de nombre, etc.
Si vous voulez, une information, puisque là, Eric vous a parlé des formes plus récentes, pour la plus ancienne, le nombre minimum d'individus est de l'ordre de la douzaine. Voilà. Attention, hein, Ça veut dire que dans certains cas, un individu, il peut être aussi bien représenté que l'homme de Denisova. Oui, monsieur.
Oui, je voudrais poser une question au professeur Brunet. Je suis monsieur de Laval. Moi, je suis quelqu'un d'intéressé. Je me cultive auprès de vous sur ce sujet. Vous avez parlé des Américains et des Français tout à l'heure. Et moi, j'ai regardé une vidéo sur Google et qui s'étonnait que RDPTQ s'est passé sur toutes les chaînes de télé aux États-Unis et qu'on n'a rien vu en France. C'est une question que je vous repose. Si vous pouvez y répondre. Oui.
Alors là, c'est pas moi qui règle les programmes de télévision aux États-Unis.
Pas encore, ça viendra.
Non, mais il n'y a pas eu de censure. Ou,
j'y
pas,
suis de... strictement pour rien. Ce que je peux vous dire, c'est que, à ma connaissance, Touma n'y est pas beaucoup passé aux États-Unis. Pas beaucoup, hein.
Mais c'est dommage. Mais
vraiment pas beaucoup. Et ça rejoint ce que je crois j'ai dit ce matin. Quand vous posez la question aux États-Unis, qui a découvert Lucie, c'est Donald Johanson. La réponse est en France, c'est Yves Coppens. C'est-à-dire que chacun garde jalousement les siens. Tel est l'homme. Et pourquoi voudriez-vous que les paléoanthropologues ou tout simplement les paléontologues nous soyons plus vertueux que les hommes politiques, les banquiers, et j'en passe, et des meilleurs. Ce serait une injustice profonde, et l'égalité biologique fait que c'est la même chose dans tous les milieux. C'est comme ça.
Mais j'ai cru que dans le comité scientifique, il y avait quand même pas mal de Français dans l'équipe de Tim White, qui a publié RDPTQ.
Ah, vous avez trouvé ? Attendez, il y a le jeune homme qui est à ma droite, il y a l'autre jeune homme qui est en train d'essayer de vous répondre. Qui d'autre encore ? Si,
il y en a 8 en tout.
Des Français ?
On est 8.
Oui. Ouais. Il y a Louchard.
Oui.
Il y a un préhistorien dont j'ai oublié le nom maintenant.
De Fleur.
Oui.
Non, il y a 8 Français en tout sur une équipe de 23. Ce qui est pas mal.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Moi, je peux rajouter quelque chose là-dessus. Non seulement Ardipithecus a été assez peu médiatisé en France par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport au reste de l'Europe. C'est-à-dire qu'Ardipithecus, on en a beaucoup parlé en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. etc. Je sais, parce que j'ai vu passer les interviews de différents pays, différents quotidiens. En France, très peu, effectivement. Alors le problème, c'est peut-être pas seulement les scientifiques. Ils sont responsables, peut-être, mais c'est aussi les médias.
Oui. Oui.
Bonjour. Je suis Antoine Verrière, je suis étudiant en géologie à Tours. Et vous n'avez pas beaucoup parlé de l'homme de Flores pendant votre exposé. Et je voulais savoir s'il y a eu des tentatives de séquençage du génome de Flores et est-ce qu'on a des informations sur les liens qu'il a pu avoir avec Sapiens.
Alors, pour l'instant, non, parce que l'homme de Flores, il vient déjà d'un milieu où c'est pas forcément très très bien conservé. Il est plus ancien que ce qu'on a pu étudier. La seule chose que je peux dire, c'est que l'équipe de Pebo et tout ça commence à en parler. Donc avec les progrès qu'ils continuent à faire, effectivement, ils envisagent, dans un futur pas trop lointain, d'essayer d'obtenir des données. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, c'est moins bien conservé. Mais dans leurs articles, effectivement, ils évoquent la possibilité de tenter sur l'homme de Flores. Mais pour l'instant, il n'y a rien.
Oui, essayez de faire des questions courtes parce que le temps passe.
Oui, c'est assez court. C'est, s'il vous plaît, à partir de monsieur, lorsque vous avez apporté le terme champignon, et puis aussi de 6 milliards qu'on dirait qu'on est sûr à revenir à 1 milliard d'individus, et puis aussi avec le critère d'espèce, de genre, et puis là, ce qui n'a pas été dit depuis ce matin, c'est à quel moment on est dans les eucaryotes, qui seraient les cellules qui s'assemblent par deux et marchent, je dirais, restent le plus longtemps par deux, et les procaryotes qui ensuite se redivisent et puis qui, eux, ont acquis une nouvelle identité. Enfin, voilà, j'en dis pas plus, c'est oui, par rapport
déjà,
à cette équation.
Ça fait déjà beaucoup de questions.
Si c'est alors, dans le cadre, si
ça
c'est
fait
dans
déjà
cadre
beaucoup
du
de
sujet.
Questions. Alors, je vais vous rassurer, monsieur. Depuis ce matin, on est clairement dans les eucaryotes, et depuis ce matin, on est sûrement plus de 7 milliards, parce que ça a augmenté depuis ce matin. Quoi. Quant au problème de l'espèce, ça serait un débat qui nous emmènerait bien trop loin pour le temps qui nous reste. Question suivante, s'il vous plaît. Allez-y.
Nos partenaires de l'école.
Profitez-en de pendant qu'ils sont là. Hein. Ils vont partir, ils vont tous prendre le train. Alors, soyez pas timides, il reste quoi? Il reste plus de 5 minutes. Monsieur le directeur, ah voilà. Alors, attention, hein.
Restons calmes. Non, mais simplement, ma question est rebondie sur l'intervention de Nathalie Richard qui a fait état de l'ambiance et de l'environnement de personnalités qui s'inscrivaient dans une démarche scientifique telle qu'elle pouvait être pensée à l'époque. Moi, je voulais savoir pour celles et ceux d'entre vous qui cherchent à combler des lacunes, s'ils ont l'impression de subir une pression de leur institution de recherche quant à telle ou telle piste donc de recherche, en l'occurrence, et si le fait que les problématiques de génétique autour des Néandertaliens et autres est si à la mode en ce moment, est-ce que c'est un moteur pour aller un peu plus là-dessus, au détriment d'autres recherches, peut-être un peu plus fondamentales, peut-être un peu plus essentielles. Voilà. Donc, en d'autres termes, est-ce que les chercheurs que vous êtes sont sensibles aux pressions médiatiques ou aux pressions politiques de leur institution de recherche?
Alors, je vais tout de suite te répondre, puis après, mes collègues vont te répondre. Alors, pour moi, pour ce qui me concerne au moins, je réponds pour moi. Alors, les pressions de mon institution de recherche, qu'elles soient parisiennes ou poitevines, jusqu'à maintenant, je les ai peu ressenties. Et ces pressions-là, je ne les ai même pas ressenties du tout quand il s'agissait de financement. Parce que les financements, il fallait se débrouiller pour aller les chercher ailleurs. Hein. Donc, des pressions de ce côté-là, je ne pense pas. Je ne sais pas les collègues, mais ça doit être à peu près équivalent. Quoi. Mais ça, tu le sais bien, ces pressions-là, elles n'existent vraiment pas du tout. Alors, les pressions médiatiques, ça, on n'y répond pas, ou quand on y répond, on se fâche.
Oui, sur votre question, en fait, c'était à la fin, je peux répondre là-dessus, c'était est-ce que ça... Finalement, vous me disiez, est-ce que vous faites du fondamental, qu'il ne faudrait pas faire un peu plus d'appliqué, c'était ça votre question? Non.
Non,
je
sais
pas.
Non, je me posais la question de savoir si y avait d'autres facteurs que des facteurs, un peu internes à votre démarche de recherche qui vous orientaient sur telle ou telle chose, qui éventuellement vous faisaient, en d'autres termes, je veux dire, quand vous êtes en première page, parce que Néandertal, ça fait vendre, est-ce que vous laissez dans le labo d'autres choses qui sont peut-être un peu plus essentielles ou fondamentales?
Alors, généralement, ça rend les collègues jaloux quand on est en première page.
Ah qu'est-ce que tu vois quand on parle du médiatique.
Alors
même,
tu veux que je te dise ça, alors je vais le dire.
J'attendais ça.
J'ai entendu des choses comme ça, à savoir des collègues d'autres disciplines disant mais enfin c'est pas possible. Ces collègues-là, ils sont allés se balader dans le désert, c'était joli, c'était beau. Ils sont tombés sur un bout de vieillesse et ça fait la une de Nature. Enfin c'est scandaleux quoi, c'est scandaleux. Oui, si c'est ça ta question, oui, moi je l'ai entendu ça. Et on me l'a rapporté. Mais tu sais comment ça s'appelle? De la jalousie. Alors ça, c'est un gisement incommensurable. Non, mais c'est partout, c'est dans tous les domaines de la société.
Parce que dans le domaine d'études de Jean Renaud, par exemple, la dimension climatique dont on ne parlait pas il y a une vingtaine d'années, niveau grand public et au niveau des décisions politiques. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ça oriente aussi des pistes de recherche pour quelqu'un comme toi qui est un jeune chercheur.
Oui, c'est pas parce qu'on en parle dans les médias ou au niveau politique. Cette question-là, elle est débattue dans le milieu scientifique au moins depuis une trentaine d'années, voire un peu plus. Et il y a beaucoup de choses qui peut-être effectivement ont été influencées par un certain climat médiatique, mais je pense qu'il y aurait un fond de travaux effectués sur cette thématique-là, quoi qu'il arrive, même sans pression médiatique. Donc c'est pas ça qui va diriger les travaux, quoi. Donc c'est non, moi je dirais non, c'est pas fondamental, il y a une petite part. Après, on a toujours du mal à avoir un recul sur ses propres travaux à un instant donné par rapport au contexte général, par rapport à la vision des choses aujourd'hui. Ça, évidemment, c'est un peu compliqué. Donc peut-être, moi je veux bien répondre à la question dans 20 ans. Ouais.
Une autre question ? On a encore le temps.
Juste une question qui n'en est pas une, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Si on mettait sur la table tous les fossiles du monde et qu'on mettait les scientifiques autour de la même table, est-ce qu'on avancerait plus vite ? La connaissance.
Vous savez bien que la réponse, vous connaissez la réponse à votre question, vous savez bien que c'est pas possible. D'abord, la salle serait trop petite. Non pas pour le matériel, hein, parce que tout le matériel qu'on connaît, ça tient sur peu de choses. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chercheurs autour. Et l'endroit où il y a le plus de chercheurs, c'est sûrement en Amérique du Nord. Sûrement en Amérique du Nord. Mais le matériel en soi, oui, tiendrait, tout le matériel tiendrait dans cette salle. Sans problème. Les chercheurs, non, hein, c'est sûr. Hein, Mendes France, il faudrait qu'ils prévoient une augmentation de surface pour tenir les chercheurs. Non. Vous n'avez plus de questions ? Alors, j'étais censé sur le papier faire une conclusion, elle va être très courte. Vous, les jeunes, vous devez quitter cette journée complètement rassurée. Parce que parmi nous, finalement, celle qui a fait la meilleure conclusion, je crois que c'est Christine Kaiser. Vous voyez bien que à peu près tout reste à faire. À peu près tout. Alors que ce soit dans les domaines, à peu près la quasi-totalité des domaines qui ont été abordés, finalement, on est sûr de rien. Mais ça, c'est une réponse très scientifique, hein, puisque de fait, en science, notre seule certitude, c'est notre incertitude. Et donc, vous devez partir et rentrer ce soir chez vous avec cette conclusion-là. Il sera important de penser quand même, si vous voulez faire ce type d'activité dans votre vie future, il est clair qu'il faudra aller, pardon de réinsister, mais il faudra aller chercher du matériel parce que les techniques toutes seules ne suffiront pas. C'est ainsi. Et je crois que ça me semble suffisant. Je voudrais en profiter pour remercier tous les collègues qui ont accepté de participer à cette journée. En dépit de conditions météorologiques difficiles, mais quand avec le directeur de cette maison on avait évoqué cette journée il y a fort longtemps et on n'avait pas pensé qu'il ferait ce temps-là, quoi, bien sûr. Hein. Merci à l'Espace Mendès France d'avoir donné l'opportunité à quelques membres de notre communauté de parler de ce qui nous intéresse plus particulièrement. Certes, il ne s'agit que de vieux os, mais nous, on est heureux, ça nous rend pleinement heureux de chercher des vieux os et d'essayer de les faire parler. Alors souvent, on essaie de les faire trop parler, mais souvent aussi, d'ailleurs dans la totalité des cas, vous aurez remarqué que c'est vous qui nous obligez à parler plus que l'on veut, parce que ce que vous voulez, et ça c'est normal, c'est humain, tout ce dont on a parlé ce matin, depuis ce matin, c'est notre histoire, à nous, les hommes, les humains, et cette histoire, elle nous intéresse tous. Et tous, vous voulez connaître cette histoire. Et vous ne voulez pas la connaître en pointillé, vous voulez avoir une idée claire. Et ce soir, vous allez repartir en vous disant, ça ne va pas, quoi. On était venu chercher l'histoire et finalement, on part avec des incertitudes. Eh bien, c'est ça qui est merveilleux parce que pour eux, les jeunes, ce soir, ils vont partir en se disant, dans le fond, ils sont bien gentils, mais ils ne sont pas si brillants que ça parce qu'il y a tellement de choses encore à faire que nous, on peut s'y mettre aussi. Eh bien, si vous repartez chez vous maintenant avec cette idée-là, on aura fait pleinement notre travail. Parce que ça vous donnera envie de faire quelque chose. Mais ça, c'est vraiment la science. La science, c'est comme ça. La vérité de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui. Ça change, ça évolue aussi. Merci à tous. Merci. Bon retour. Merci.